Bien, bonjour. Merci infiniment de votre présence. Alors, je me permets de faire une sorte de mini présentation avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est ce qui est plus intéressant, peut-être quelques éléments de contexte. Donc, c'est la 5e édition d'une manifestation qui s'appelle le Canon sur les planches, qui vise à réfléchir, en fait, à l'intérêt de travailler des pièces du canon dramatique, hein, à la fois intérêt pour les metteurs en scène et les metteuses en scène et les comédiens et les comédiennes, mais aussi pour les chercheurs de travailler là-dessus. Et donc l'idée, c'est que ces rencontres, et on en a eu déjà sur Molière, Marivaux, Racine l'année dernière et sur Phèdre, c'est que des universitaires, des chercheurs et des praticiens du théâtre parlent ensemble et essaient d'éclairer leurs perspectives mutuelles. Qu'est-ce que nous apprenons, nous, universitaires, en allant au spectacle, et inversement, à quoi ça sert peut-être de lire de la critique quand on est un metteur en scène ou un comédien? Alors, de fait, cette manifestation bénéficie de nombreux soutiens que je me permets de nommer brièvement parce que tous sont très chers à mon cœur. Bien sûr, la Comédie de Saint-Étienne qui nous accueille de manière extrêmement généreuse, ouverte, et on lui en est très reconnaissant. L'IRIM qui soutient cette manifestation, ainsi que l'Institut Art et la Graduate Plus Art. Et puis, depuis cette année, l'école doctorale 3LA, puisque cette manifestation est devenue aussi une formation pour les doctorants, ce dont vous imaginez bien, je suis extrêmement contente. Alors, quelle pièce mieux que Les femmes savantes de Molière par Benoît Lambert pour aborder cette question du canon? Aucune, bien sûr. Non seulement parce que la pièce de 62, qui a été créée en 1672, est à la fois un cliché des programmes scolaires et peut-être des programmes scolaires un peu des années 60, 70, 80, que des années 2020, mais voilà. Mais aussi et surtout parce que le spectacle connaît un très vif succès. Nous l'avons vu hier et c'était extrêmement réjouissant de voir à quel point la salle composée de spectateurs très variés était unanimement enthousiaste. Et remarquez à cet égard qu'en fait, cette œuvre n'a pas perdu ni de son énergie ni de son intensité grâce à une mise en scène, à des comédiennes et des comédiens qui la portent. Et ce qui est d'autant plus remarquable que sa contemporanéité ne va pas de soi, et peut-être qu'on y reviendra, mais elle a fait l'objet d'usages et d'interprétations qui nous paraîtraient précisément largement périmés, en particulier à la population féminine de cette assemblée. Alors pour mener la discussion, je suis très heureuse de réunir Benoît Lambert, que tout le monde connaît, directeur de la Comédie de Saint-Étienne, directeur de l'École de la Comédie et metteur en scène, mais aussi Véronique Lecher, membre de l'Université de Mulhouse et du laboratoire IL, Michel Rossellini de l'ENS de Lyon et du laboratoire IRIM, et Delphine Régui de l'Université Jean Monnet et du laboratoire IRIM. Je vous remercie beaucoup et nous aurons un petit temps de discussion également d'environ 25-30 minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez évidemment poser. Alors peut-être, alors cette rencontre est enregistrée, d'où le fait qu'on soit un peu avec nos micros, je vous prie de nous en excuser, mais c'est parce qu'en fait, si jamais nous n'avons pas les micros, l'enregistrement ne fonctionne pas bien. Alors peut-être, pour lancer le débat, la première chose qu'on pourrait évoquer, c'est le fait que c'est une comédie. Et j'ai bien le sentiment que je dis une chose qui paraît un peu un truisme, voire une lapalissade, et je ne voudrais pas sembler trop convenue, mais en fait, c'est très remarquable à quel point on rit dans cette pièce, et à quel point ça virevolte dans tous les sens. Alors, ça va aussi peut-être avec l'idée qu'on assume l'altérité de la pièce. Alors, c'est un des mots que Benoît donne dans le programme, mais c'est à la fois l'altérité du théâtre de Molière, c'est effectivement une autre époque. Nous ne sommes pas nés au XVIIe siècle, on le déplore peut-être, mais c'est un fait. Mais c'est aussi l'altérité de la fiction, je crois, qui est revendiquée, en fait. On assume cette altérité, il n'y a pas une actualisation forcée, et peut-être qu'on peut commencer par cette question-là de pourquoi est-ce que les femmes savantes sont une comédie ? Si vous en êtes d'accord.
D'abord parce qu'on pourrait dire assez bêtement parce que c'est une pièce de Molière et qu'à ma connaissance il a écrit que des comédies, enfin en tout cas quasiment que des comédies.
Il a essayé d'écrire des tragédies, ouais. Mais ça s'est mal passé.
Ça s'est mal passé. Et que quand on s'attaque à une pièce, enfin quand on a commencé, quand on a fait la première lecture des femmes savantes devant l'équipe de la comédie, je regarde dans la salle, je vois Julien. On s'est tous fait peur, enfin nous aussi on s'est fait peur, c'est-à-dire on s'est dit mais c'est très, justement c'est très lointain, c'est très difficile, la langue est difficile, en plus c'est une pièce qui n'a pas l'air de prime abord d'être une pièce à machine comme sur certaines comédies de Molière avec beaucoup de rebondissements. Quand on a monté la VAR il y a quelques années, il y avait une sorte de chose plus facile qui était que c'était une pièce à intrigue, une pièce à machine, une pièce à rebondissement. C'est une pièce quand même très rhétorique, où les personnages parlent beaucoup. Il y a beaucoup de personnages qui développent des discours. La capacité pour nous à comprendre même les énoncés qu'ils produisent, nous déjà qui travaillons longtemps dessus, mais ceux qui viennent la découvrir et qui passent à peine 2 heures dans la salle, donc on avait cette difficulté-là. Et en fait, en la travaillant, on a fini par mesurer que ça n'était pas moins une pièce à ressort comique que plein d'autres comédies de Molière. Ce qui était troublant en la montant, c'est que j'ai eu le sentiment à certains moments qu'on était en train de monter 5 petites pièces en un acte. Parce que cette pièce, contrairement à d'autres, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas organisée autour d'un personnage central. Il y a quand même beaucoup de pièces de Molière qui s'appellent le misanthrope, l'avare, le bourgeois, le malade imaginaire. Et comme ça, une figure centrale qu'il jouait lui, hein, d'ailleurs. Il s'écrivait des rôles quand même assez copieux habituellement. Là, il s'est écrit un rôle beaucoup plus modeste, qui est le rôle de Chrysal. Parce que c'était quand même, je crois, un acteur très, très, très prisé, très fameux. On venait voir cet acteur aussi dans son numéro d'acteur, avec des attentes précises sur des choses qu'il devait, j'imagine, qu'il devait faire d'une représentation à l'autre et qu'on avait envie de revoir. Je ne sais pas l'équivalent, je vais faire ça avec des références de vieillards, mais je ne sais pas, Louis de Funès, enfin des gens, on espère voir toujours quelque chose d'eux quand on vient les voir jouer. Donc là, il s'est écrit d'ailleurs dans le rôle de Chrysal des choses qu'on peut retrouver dans Harpagon, qu'on peut retrouver dans Alceste, enfin, des moments dont on se dit qu'ils sont liés à un tempérament d'acteur, au fond. Mais en réalité, la pièce, celle-ci, elle n'est pas du tout organisée autour de ce personnage que lui joue, parce qu'il est finalement assez secondaire dans l'action, Chrysal, mais autour d'une multiplicité de figures, d'abord beaucoup de figures féminines, qui sont quand même elles qui font avancer l'intrigue. Habituellement, les jeunes filles dans les œuvres de Molière, me semble-t-il, bon, peut-être pas dans l'école des femmes, mais en tout cas dans beaucoup d'œuvres de Molière, c'était le cas dans l'Avare, sont quand même des personnages très satellisés, qui sont souvent les enjeux des mariages, donc les enjeux d'un certain nombre de querelles, mais qui sont pas les moteurs de l'action. Là, c'est quand même vraiment le groupe des femmes, des 5 femmes de la pièce qui font avancer l'intrigue. Mais cette intrigue, au fond, donc je disais 5 petites pièces en un acte, mais ensuite, quand on regarde la structure générale, moi j'ai quand même le sentiment que c'est toujours un peu pareil. Je dis des choses, pardon, trop générales et trop grossières, mais je vois cette chose-là dans la structure de ces pièces. C'est-à-dire, il fait quand même monter la température tranquillement sur les 3 premiers actes, avec souvent un acte 3 qui va être un vrai acte de comédie. Là, c'est l'acte du sonnet qui est vraiment un acte de comédie pure, d'une certaine manière, quoi. Et puis ensuite, il y a souvent un acte 4 où on calme un peu le jeu, souvent qu'il y a un acte avec un peu plus de gravité, parfois des questions plus sentimentales, parfois des questions où il vient presque flirter comme ça au bord de la tragédie ou du drame, enfin avec des scènes un peu plus poignantes, etc., pour préparer un acte 5 qui alors là est un enchaînement mais virtuose, je trouve, de gag contre gag, etc., etc., et on a l'impression qu'il a le compteur de rire, quoi, en disant Lassari, et il enchaîne les répliques qui tuent, etc., etc. Je fais une remarque d'ailleurs en passant, c'est que ça c'est quand même une preuve d'immense savoir-faire un peu roué, quoi. C'est que là on voit le métier du gars. C'est qu'une chose est sûre, c'est que comme vous finissez sur cet acte 5 avec ces enchaînements de cabrioles et de pirouettes, quand vous sortez, vous êtes content. Les gens sont contents parce que ça a fini avec une espèce de feu d'artifice. Il y a un effet bouquet final qui fait que même s'il y a eu des moments dans la pièce, et c'est vrai dans d'autres pièces de Molière, hein, où on a un peu plus été à la peine en se disant un peu longue cette tirade quand même, le souvenir qu'on en garde, c'est le dernier quart d'heure qui est souvent assez éblouissant. Mais c'est vrai que moi, je pensais que c'était une pièce un peu salonarde, un peu bavarde, un peu languissante, et qu'en réalité, quand on l'active, quand on la travaille, quand on la pratique, on retrouve plein de mécanismes, plein de mécanismes de comédie pure, mais avec des choses dont je ne sais pas dire la modernité, parce que je ne sais pas si c'est un terme qui est pertinent le concernant, mais oui, un sens du gag, enfin je sais pas comment dire, de la rupture comique placée exactement où il faut. Par exemple, la dernière intervention de Bélise, je dis ça parce que Marion est dans la salle, mais une des dernières interventions de Bélise, quand elle saute dans les bras de Clitandre, au moment où on ne sait plus qui marie avec qui, il y a des propositions qui lui feraient plus plaisir, etc., et où elle fait une blague en fait assez grave, enfin, un peu à double sens sur la matière qui pense et la matière étendue. Enfin bon, quand on répétait, nous, on se disait, mais ce truc, il tombe comme un cheveu sur la soupe, ça passera jamais. Et en fait, c'est dans la dynamique avec le public, en réalité, ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi les autres s'arrêtaient et laissaient Bélis faire un numéro qui dure de 20 secondes. Mais en fait, dans l'économie du spectateur, de la spectatrice, bon, bah, c'est fait pour ça, en fait, quoi. Voilà ce que je peux dire sur la comédie.
Pour rebondir sur cette question de comédie, moi j'ai été très frappée, et je pense qu'on l'a tout été, c'est par la dynamique des comédiens. Alors je salue ceux qui sont dans la salle, mais de fait ça court, il y a des cabrioles, enfin il y a une sorte de joie de vivre qui est extrêmement agréable et régénératrice. Et en fait c'était peut-être le contraire de la tradition qu'on avait pu avoir, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, qui était la tradition d'une pièce édifiante, où Henriette serait le modèle auquel on aspirerait tous et surtout toutes, et précisément la pièce montre quelque chose. Donc peut-être que je peux passer la parole à Michel, mais sur cette question justement de la représentation des femmes, la représentation des personnages féminins, et peut-être que c'est quelque chose qui mérite un tout petit peu qu'on s'en arrête, si vous voulez bien.
Allumé. Très bien, merci pour ta question. Alors moi qui suis d'une autre génération, peut-être la plus ancienne ici, je peux faire part déjà de mon expérience. En tant que lycéenne, on m'a enseigné cette pièce dans un lycée de filles, un lycée public, mais quand même un lycée de filles, qui n'était pas un couvent néanmoins. On m'a enseigné cette pièce de manière extrêmement doctrinale, hein, avec l'idée que Henriette était porteuse du message de la pièce et que finalement, elle enjoignait aux femmes une modestie en matière de formation intellectuelle et une vocation à assumer le rôle qui leur revenait dans la génération qui était la leur, c'est-à-dire de perpétuer finalement la tradition à la fois domestique, de reproduction, hein, reproduire la lignée, faire des enfants, éventuellement avoir un métier, parce que quand même la vie économique de l'époque était devenue difficile, donc c'était bien d'avoir deux salaires dans un ménage, etc. Donc vous voyez comment cette pièce pouvait être instrumentalisée à partir d'une lecture extrêmement partielle et partielle, hein, de sa dramaturgie même. Alors qu'à l'inverse, il y a pu avoir des lectures, et j'avais vu d'ailleurs, je ne sais plus en quelle année, il y a, disons, une trentaine d'années peut-être, je ne saurais plus dire, une mise en scène vraiment féministe, hein, qui prenait le contre-pied et qui finalement accentuait le caractère genré de la pièce en montrant que le message positif pouvait être du côté des femmes dites savantes, et en particulier d'Armande, qui devenait une sorte d'androgyne extrêmement élégante et raffinée dans sa manière de penser et dans le message qu'elle délivrait à ses consoeurs femmes. Donc vous voyez, on peut passer d'un extrême à l'autre, il y a une sorte de bipolarisation de cette pièce qui, à mon avis, est complètement déjouée, enfin je pense que vous l'avez vu, par la mise en scène de Benoît Lambert, qui fait entendre la complexité des interactions même, hein, entre les personnages, et ces discours dont il vient de dire lui-même qu'ils pouvaient être des tunnels, hein, ces longues répliques, voilà, eh bien on les entend de manière très claire, je trouve, sans qu'il y ait d'effet appuyé sur certaines sentences, comme par exemple « Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie ?» Ce n'est pas souligné par une forme d'excès dans la diction ou d'arrêt sur la phrase, etc. Et n'empêche qu'on entend de manière très fluide et très juste les différentes positions qui, en fait, n'arrivent ni à se concilier, ni à se heurter d'une manière absolument frontale. Et ça, je trouve ça très fin comme travail et très intéressant. Mais je parle trop, donc...
Non, pas du tout, au contraire.
Voilà, et donc, voilà, c'est ce qui m'a vraiment intéressée dans cette mise en scène, parce qu'on relit, on lit le texte autrement. Hein. On a envie de revenir au texte après l'avoir entendu.
Véronique ?
Oui, je veux bien reprendre aussi, donc toujours autour de ces personnages féminins, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappée, notamment dans la scène où Trissotin apparaît, c'est vrai que j'avais un peu cette image des femmes savantes victimes de Trissotin, et je m'attendais à voir un Trissotin manipulateur, dangereux, effrayant, grotesque, et je trouvais que c'était intéressant de le voir plus en retrait, finalement, par rapport à elle, de voir que c'était elle qui ouvrait cette scène, Et on avait l'impression que c'était vrai, que c'est, enfin, la mise en scène suggère que c'est vraiment elles, effectivement, qui font avancer la pièce, comme le disait Benoît Lambert à l'instant, que ce sont elles qui ont l'initiative, en fait, de tout ce qu'elles font, qu'elles assument finalement cela et qu'elles ne sont pas dupées simplement, qu'elles ne sont pas les victimes d'une espèce de tartuffe du savoir. Donc voilà, ça c'est aussi une interprétation que je trouvais intéressante. De même que le choix de ne pas en faire des caricatures, enfin de ne pas aller du côté de la satire à charge, mais de révéler aussi la part d'humanité, la part de souffrance aussi, notamment à travers le personnage d'Armande, qui est vraiment mis en valeur par la mise en scène et qui révèle une profondeur, une complexité qu'on ne perçoit pas forcément d'emblée dans le personnage.
Oui, je peux ajouter, pour aller dans votre sens, l'idée selon laquelle la mise en scène fait bien ressortir la nécessité de ne jamais décontextualiser les prises de parole de chacun ou chacune des personnages sur scène. Parce que ces prises de parole, ces tirades qu'on attend, dans l'usage scolaire, on a tendance à extraire et à donner aux élèves comme ça, comme des morceaux bruts, ces textes-là ne prennent sens que dans le jeu, dans la polyphonie, dans le cadre de la mise en rapport de force, la mise en conflit. Et en effet, chaque prise de parole des personnages rejoue la parole précédente ou la suivante, et on n'a jamais le temps, en fait, de s'arrêter pendant le jeu, sur l'une ou l'autre de ces prises de parole pour se demander si c'est Molière qui parle, quel est le personnage qui serait éventuellement le porte-parole ou la porte-parole de Molière. Ces questions-là, elles sont complètement dynamitées sur la scène. Et la mise en scène était très propre à faire ressortir la circulation des prises de parole. Et par conséquent, on ne peut jamais isoler un discours sur les femmes qui en feraient soit des victimes, soit des dominatrices, comme on en parlait tout à l'heure. Et il me semble que c'est absolument essentiel et que la façon dont le décor bougeait incitait à cette déréification de l'approche des personnages et des discours.
Oui, je crois qu'il y a une chose qui effectivement nous a toutes beaucoup frappées, c'est qu'on fait entendre toute la... C'est de fait un éloge, hein, mais on entend le texte, alors qu'en fait, on a été habitué à entendre Molière comme sorte de boue. Enfin, on avait l'impression d'avoir un catalogue de petits passages choisis qu'on connaissait, puis chaque acteur avait le passage qu'on attendait. Et là, au contraire, en réalité, on essaie d'entendre la dynamique globale de la pièce. Alors peut-être que, je ne sais pas s'il faut revenir sur la manière dont vous avez travaillé au plateau, au plateau ou à la table au préalable, et la manière aussi dont chaque personnage admet... Enfin, chacun des rôles admet le fait qu'il puisse dire des choses qui nous paraissent pertinentes ou moins pertinentes, enfin, qu'il n'y ait pas une sorte de ligne, tu vois, une sorte de polysémie très forte dans les directs. Enfin, le cas de Philamine, par exemple, est très frappant, peut-être pour citer une phrase, mais tout à l'heure, on a parlé du fait de ce passage à l'acte 3, scène 2, où Philamine dit « Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger tout tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes », qui, évidemment, est un propos auquel on ne peut toutes que souscrire, et certains messieurs sûrement aussi, mais en l'occurrence, Philamine n'est pas du tout que ce côté monochrome. Et donc peut-être que c'est sur cette espèce de polysémie des caractères qui, je crois, est une vraie question à la fois dans la mise en scène, dans le jeu, et dans la réception de Molière aussi, qui me semble un enjeu peut-être qu'on peut aborder, si vous voulez bien.
Déjà, dans ce que vous avez dit, il y a une chose qui est assez fondamentale, c'est qu'on a très souvent accès à Molière de couper en tranches. À cause de l'école républicaine, qui le découpe en tranches, en moments choisis, en moments édifiants, etc. Mais je pourrais dire aussi à cause de l'école de théâtre. Nous-mêmes, à l'école de théâtre, nous découpons Molière en tranches, et on a vu un nombre incalculable de fois dans les concours, quand on recrute les élèves, la première scène, Henriette Armande, voilà, scène de concours. Donc chez Molière, il y a des scènes de concours. Ce qu'on appelle nous-mêmes des scènes de concours, et donc il y en a un certain nombre, et parfois il ne nous reste des pièces que les scènes de concours, ce qui d'ailleurs les rend assez inappétissantes. C'est à la fois le souvenir scolaire et le souvenir parfois de l'école de théâtre, enfin, et de la scène de concours. Dès lors qu'on regarde la pièce, et j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, y compris de gens de théâtre, qui me disaient en sortant, en fait je ne la connaissais pas cette pièce. Et c'est vrai que nous-mêmes en la lisant, on se rend compte à quel point on ne la connaît pas. Et à partir du moment où on commence à la travailler dans son entièreté, il se passe deux phénomènes. Bah d'abord, non seulement les scènes de concours disparaissent dans le continuum de la pièce, et un des enjeux, c'est précisément de leur enlever ce caractère exceptionnel, voire attendu, hein, parfois. Moi, là, c'est un souvenir qui n'est pas sur les femmes savantes, même si on peut dire la scène du sonnet. Par exemple, chaque soir, les gens rient sur quoi qu'on dit. J'allais presque dire par anticipation, c'est-à-dire que tout le monde se souvient que dans cette pièce, enfin beaucoup de gens se souviennent que dans cette pièce, quoi qu'on dit, c'est rigolo. Alors, pourquoi ? Alors, en revanche, on ne sait pas. Mais il y a un truc qui est le vague souvenir qu'on en a. Autour du quoi qu'on dit, y a, comme si on annonçait un gag. De la même manière, quand on jouait l'avare, évidemment, vous imaginez tous que tout le monde attendait au voleur, à l'assassin, etc. Et pas ma cassette, puisque à aucun moment de la pièce, Harpagon ne dit ma cassette, alors que quand vous sortez de scène et que vous êtes l'acteur qui a joué Harpagon, des gens viennent vous dire ma cassette, alors qu'il ne l'a jamais dit. Donc j'ai l'idée qu'on se fait des pièces perdurent parfois au-delà. Je dis ça aussi parce que j'ai eu des discussions sur les femmes savantes où des gens me disaient avoir vu de la pièce des choses qui n'y sont pas. Mais c'est pas grave, enfin, les spectacles ont lieu dans la tête de ceux qui regardent, hein, bien entendu, mais... Donc déjà, c'est de lui redonner sa continuité. Parfois, on fait un exercice, en tout cas moi je le fais pour moi-même, sur les pièces de Molière, c'est de m'obliger à raconter l'histoire. C'est quoi l'histoire de la pièce ? Il se passe quoi ? C'est quoi les événements, péripétie par péripétie ? Par exemple, nous on s'est rendu compte d'une chose, on parlait de dynamique au début, alors ça, c'est pas un choix de mise en scène, c'est qu'en fait, comme souvent les comédies, la comédie elle est intéressante parce que c'est ce jour-là. Ça rejoint ce que tu disais sur la contextualisation des paroles. Ce jour-là, ces gens vont faire ça et dire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils font ça et qu'ils disent ça tous les jours. Ils le font ce jour-là. Et ce jour-là, il est très spécial. Et comme souvent chez Molière, ça démarre tôt. C'est-à-dire que ce jour-là, c'est le jour parce que Armand et Henriette, pour la première fois, et c'est toutes les premières fois qu'il faut regarder dans la pièce, pour la première fois, Clitande tombe sur les deux frangines. Il a dragué l'aîné pendant 2 ans, mais la cadette, peut-être que ça fait 2 jours. Ou une semaine. Ça fait peut-être très peu de temps qu'il a changé de projet. Et pour la première fois, il arrive ce qu'il doit redouter depuis un moment, il tombe sur les deux en même temps. Et les deux en même temps lui disent « Bon, maintenant, il faut que tu dises laquelle tu préfères. » Et il le dit. Il choisit Henriette. Ce que je trouve d'une inélégance rare. Enfin, je trouve ce début de pièce absolument atroce, quoi. Je trouve Henriette et Clitandre un tout petit peu immonde, hein, je le dis à titre personnel. Donc, je le dis avec tendresse et les acteurs savent que j'en pense ça des personnages. Je leur ai dit très tôt qu'ils jouaient les méchants dans la pièce, hein, de toute façon. Donc, à partir de là, Armand dit « Oui, mais attendez, est-ce que les parents sont au courant ?» Et Henriette dit « Mais je vais leur demander. Et d'ailleurs, on va se marier. Mais moi, je ne sais pas où ils en sont à ce moment-là, Clitandre et Henriette. Ils ont commencé à se parler. Mais là, on passe de « On se parle » à « On se marie ». Dans la scène, sous nos yeux. Donc, aussitôt, Clitandre s'engage dans un truc qui est « Bon, bah, il faut que j'obtienne la main d'Henriette. » Et de son côté, donc ça, c'est le début. Donc, ça déclenche l'acte 2. Via le personnage d'Ariste, et là il faut marier Henriette, il faut aller obtenir la main d'Henriette, d'abord auprès du père, mais le père il est obligé d'en parler à la mère. Or il se passe quoi ? Mais ça c'est un événement de ce jour-là. Ce jour-là, il s'engueule autour de Martine. Donc Chrysale pique une colère homérique, vous n'aurez pas échappé dans cette pièce d'ailleurs qu'on a un homme qui éructe pendant 10 minutes et qui explique ensuite que sa femme gueule. Hein. Moi, j'aime bien cette fin d'acte où Chrysale dit, on le disait en plaisantant à midi, « Ouais, mais bon, avec les bonnes femmes, on ne peut plus rien dire. Elle jacte en permanence. » C'est lui qui a tenu le crachoir pendant tout l'acte. Hein, je veux dire, c'est lui qui parle, toute file à mainte. Vous pouvez regarder en termes de nombre de vers, il n'y a pas photo. C'est lui qui cause. Hein. Et là, parce qu'il vient de se prendre la tête horriblement avec sa femme, on disait en plaisantant avec Anne, la comédienne qui joue file à mainte, il dit « Je ne supporte pas Trissotin. » Et elle lui répond du tac au tac, « Eh bien, il va épouser notre fille. » Mais peut-être que l'idée lui vient là, à ce moment-là. Donc là commence une compétition qui ne va faire que s'accélérer au fur et à mesure de la pièce. Il y a une espèce d'effet de surenchère où ça va être « bon, bah, on les marie, mais on les marie quand ? Mais on les marie ce soir, mais je vais chercher un notaire, mais moi aussi je vais chercher un notaire. » Et on se retrouve dans cette panique à la fin où Henriette, au début de la pièce, elle a dit « on se mariera un jour avec Clitandre », a signé un contrat de mariage là, dans la journée. Donc il y a un effet comme ça aussi, ça a à voir avec la comédie, d'accélération et de précipité, qui fait que si on arrête de regarder les scènes édifiantes ou les scènes considérées comme telles, les scènes de concours, les morceaux choisis, en se disant bah, « la pièce c'est ça », mais qu'on se dit « non, la pièce c'est pas ça, la pièce c'est à l'intérieur d'une famille, tirage de bourre entre deux factions rivales, savoir qui va gagner sur la ligne d'arrivée pour obtenir un mariage ». Alors là, on est plutôt du côté, je ne sais pas, de Feydeau, de Beaumarchais. Et je dis souvent, quand on monte Molière, On pourrait sous-titrer toutes les pièces de Molière et beaucoup de comédies de toute façon, mais Molière en particulier, puisque c'est le théâtre classique, la folle journée. C'est-à-dire de toujours se dire ce jour-là. Ce jour-là, Harpagon a enterré 10 000 écus dans son jardin. C'est pas tous les jours l'avare est comme ça, c'est ce jour-là, il est arrivé cette chose. Et dans cette pièce-là, si on veut décoller des énoncés généraux, de ce qui semble être des énoncés généraux, pour les remettre dans les contextes très particuliers, je sais pas, dans l'acte 2, par exemple, qui est un grand acte de comédie, il y a la demande de mariage, mais il y a Bélise qui vient la perturber, puis il y a le renvoi de Martine, puis, ce qui fait qu'au moment où Chrysal enfin parle du projet de mariage avec sa femme, il y a déjà 25 armoires qui se sont effondrées, qui fait que la situation dans laquelle il vient lui parler est déjà plus la même, quoi. Je ne sais plus quelle était la question de départ, mais c'était ma réponse. Comme aurait dit un ancien secrétaire du Parti communiste français.
Non, peut-être, pardon, je relance. Alors, puisqu'on est dans le décor et la question est quand même celle à un moment du savoir, donc vous voyez de loin, pour ceux qui n'ont pas encore vu la pièce, vous voyez des bibliothèques, lesquelles, en fait, vous verrez, sont, je me permets de divulguer, je spoil, hein, donc elles seront face plateau et deux à l'avant du plateau, et progressivement, elles vont, à chaque acte, et ça va du coup scander d'ailleurs la progression de l'intrigue, se déplacer, et à la fin du spectacle, eh bien, on ne verra plus les bibliothèques, mais l'arrière des bibliothèques. Donc peut-être qu'une des questions quand même que pose cette pièce, hein, qui est une question, je crois, à la fois essentielle à l'époque de Molière, mais non moins essentielle aujourd'hui, et sur lequel je crois on a toutes et tous des choses à dire, c'est la question du rapport au savoir, hein, à la fois de la présence du savoir et de la thématisation du savoir dans la pièce, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a des noms qui sont des noms de contemporains, à quoi ça sert de les mentionner, quelles sont les cibles de Molière à l'époque, quelles sont les cibles qu'on n'a pas vues, quelles sont les cibles qu'on a trop vues, quelles sont les cibles qu'on revoit aujourd'hui, et peut-être aussi cette question, et peut-être pour arriver à un moment, à la question du personnage, en effet, de Clitandre, qui crache dans un livre, qui est une image qui nous a, toutes les quatre, je crois, hérissées. Donc, je pense que peut-être quelques...
Oui, c'est méchant, il faudrait que je fasse des trucs de méchant.
Je ne sais pas si ça m'a hérissée.
Non, mais c'était troublant.
C'était troublant, mais en même temps, c'est assez conforme à une certaine façon de représenter ou de se représenter l'idée de modernité à partir de ces années-là, 70, 80, 90, qui consiste à détacher la modernité de l'idée de livre, justement, de ce que représente le livre en termes d'autorité, de fixation du savoir. Contrairement aux idées en progrès, au contraire d'émancipation intellectuelle, d'autonomie intellectuelle surtout, de valorisation de l'empirisme, aussi du rapport personnel à la nature et tous les objets. Il n'y a pas que des livres hein, dans les bibliothèques. Tous les objets qui sont dans les bibliothèques sont des objets de rapport direct, enfin qui permettent un rapport direct et expérimental à la nature. Et il me semble que ce crachat dans le livre, il faut peut-être le prendre d'un peu plus loin. C'est vrai que c'est une image très violente, mais je crois que si on la contextualise un peu dans l'époque, elle reprend du sens. Pardon, je vais encore parler de Perrault, désolée. En ce moment, je suis très plongée dedans. Mais il y a un texte de Perrault qui prend Molière en exemple de quelqu'un qui ne se laisse pas mener par son savoir livresque, mais qui le domine, ce savoir livresque, et qui se l'approprie. Et dans le parallèle, Molière est qualifié de voyageur moderne par son irrévérence et sa capacité à mettre à distance le savoir pour ne pas être accablé par lui et domestiqué par lui, en fait, parce qu'on peut devenir très bête en étant très savant. Et c'est cette dialectique entre science, bêtise et autonomie intellectuelle qui, je crois, est l'un des objets de la pièce.
Je voulais juste dire une chose, en fait, par rapport à tout à l'heure, mais c'est ce qui vient d'être dit qui m'y fait penser. Je fais une remarque en passant, c'est qu'on a cherché beaucoup de signes avec Christian, qui joue Clitandre, parce que c'était important pour nous de montrer la violence du personnage, d'abord. Ensuite, le rapport quand même de mépris et de surveillance qu'il annonce à ce moment-là ou qu'il énonce vis-à-vis de ce salon. Bon, il y a comme ça plusieurs choses. Et ce rapport de mépris vis-à-vis des livres, enfin, et tout ça, et tous les signes nous paraissaient excessifs, violents, donc on les avait tous enlevés. Il a refait cette chose de cracher dans le livre de son propre chef, sans me le dire, un soir de représentation. Et jusqu'à présent, je ne lui ai rien dit. Enfin, en tout cas, on ne se dit rien, on se regarde dans les couloirs, comme ça. Il se dit, quand est-ce qu'il va me dire d'arrêter ? Je me dis, quand est-ce qu'il va arrêter ? Mais je lui fous la paix, c'est lui qui joue le rôle, hein, donc.
Faut juste pas prendre le livre derrière lui.
Ouais, non mais en fait, c'est-à-dire qu'en répétition il crachait vraiment dans le livre, c'était dégueulasse. Non, en fait il fait la chose, mais il n'y a pas un vrai crachat qui va dans le livre, il le mime. Enfin, je ne sais pas. Alors, c'est pour dire que je suis moi-même comme ça flottant sur ce signe. Qui a de l'intérêt, qui rend vraiment le personnage vraiment pour moi déplaisant, assez loin. Je vois la violence que ça provoque sur Anne et Ludovic et Lina, qui ont quand même dans cet amour des livres professé pendant toute la pièce, et tout d'un coup. Donc pour l'instant, ce signe est là, mais que ça, c'est les représentations. Enfin, Je sais pas ce que j'en pense. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui est scandalisée et une autre partie un peu bête qui me fait dire ah ben non, c'est un jeune aristocrate, il ferait pas un truc aussi nul, je sais pas quoi. Et en même temps, je pense que l'acteur a raison aussi. J'ai tendance à penser que les acteurs ont souvent raison, donc et je vois ce que ça lui a donné comme point d'appui pour faire d'autres choses aussi. Donc je pense que pour l'instant c'est comme ça et voilà. L'autre chose que je voulais dire, simplement, mais ce qui rejoint des choses qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans cette pièce aussi, c'est à quel point des personnages pouvaient énoncer une chose avec laquelle vous êtes absolument d'accord. Tout d'un coup, ils disent une chose où vous dites « Ah ben oui, mais même je prends Chrysal au début quand il dit « Mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin ». Bon, ben ça, c'est une bonne philosophie matérialiste à laquelle, intellectuellement, j'adhère complètement. Et derrière, il va se mettre à déverser tout un tas d'immondices qui vont quand même finir par « Ouais, bah, les bonnes femmes, il suffit qu'elles sachent coudre, quoi. » C'est de ce niveau-là, hein, ce qu'il dit. Donc comment est-ce qu'on part d'un propos et on a un peu des symétries, parce que Philamente, elle commence en disant ce qu'on a rappelé tout à l'heure, et elle finit en disant « On va couper les mots, on va en supprimer certains, et de toute façon, il n'y a que nous qui dirons ce qu'il faut penser, etc. » Donc, à chaque fois que les personnages énoncent une chose dans laquelle on a envie de se reconnaître, et ça, c'est ce que j'aime chez Molière, il vous fait dériver comme ça, et au bout d'un moment, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi ? Et donc, la personne à laquelle vous étiez en train de vous identifier ou avec laquelle vous aviez envie d'adhérer, tout d'un coup, devient un vrai repoussoir. Et réciproquement, le personnage repoussant dit tout d'un coup une chose qui vous paraît sensée. Et voilà.
Moi, j'avais une suggestion ou une question pour revenir à l'histoire du crachat qui nous a toutes quand même interpellées. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir, et peut-être que spontanément le comédien l'a joué comme ça ou l'a ressenti comme ça, c'est une manière de déplacer cette rivalité pour lui insupportable avec cette espèce de personnage sans dignité sociale qui est Trissota, qui est entretenu par Philamente, qui le finance, alors que lui est un homme de cour. Et tu disais là, en aparté, quand on parlait de la construction de ces deux personnages vis-à-vis, c'est qu'on a toute l'incompatibilité des positions sociales et que, évidemment, Clitandre ne peut pas le provoquer en duel, voilà, on n'est pas du même monde, mais il ne peut pas non plus entamer un pugilat sur scène. Et alors, cracher dans le livre incarnant ce savoir exhibé, mais à la fois complètement périmé par les codes de la civilité contemporaine qu'incarne Trissotin, eh ben, il crache dessus, faute de pouvoir. Enfin, moi, en y réfléchissant, je me suis dit, il y a peut-être là un déplacement, et on pourrait peut-être interroger le comédien en ce sens.
C'est un objet transitionnel.
Hein, voilà.
C'est un objet transitionnel.
Un objet transitionnel. Oui, tu as le bon concept. Voilà.
Il y a une chose qui est quand même étonnante dans cette pièce. En tout cas, moi, à chaque fois, je la vois, parce que je la vois plus que vous. Hein, c'est pour ça. Donc, en ce moment, je la vois tous les jours. c'est que chaque fois qu'il fait rentrer des hommes en scène dans cette pièce, quand même, donc c'est pour ça, sur qu'est-ce qu'elle dit, des rapports de genre, etc., chaque fois qu'il fait rentrer des hommes en scène, soit il s'énerve, soit il s'engueule. Systématiquement. C'est-à-dire que quand Trissotin est avec, au sein du salon, c'est une forme d'état de paix. Alors après, on peut gloser à l'infini, est-ce que son sonnet est ridicule, est-ce qu'il est beau, est-ce que, en tout cas, il passe un moment enthousiasmant. Alors on peut dire, ah, elles sont débiles. Moi, j'en sais rien, moi, je sais pas. On écoute tous des chansons qu'on pourrait considérer débiles et qui nous enthousiasment. Hein, donc, et si on vous disait, le chanteur va venir les chanter dans votre salon, il y a peut-être des gens qui diraient, oh oui. Et dès que Vadius arrive, ça se finit avec deux mecs qui se hurlent dessus. Trissotin se retrouve face à Clitandre, il menace d'en passer aux mains, mais en 10 secondes, quoi. Chrysale et son frère, même pour se regonfler, le ton monte. Enfin, les états de paix, c'est quand les mecs sont pas là. Ou en tout cas, quand il n'y en a pas deux. Mais s'il y a deux mecs, il n'y a pas d'état de paix dans la pièce. C'est un peu général, quoi. C'est un peu systématique. Et moi, de voir ces femmes, notamment dans la scène du sonnet, je finissais par me dire hier soir en le regardant qu'en fait, c'est Guignol, quoi. Quand il dit j'ai appelé un copain, elles savent qu'ils vont se pourrir. Mais c'est Guignol. Faites venir votre copain, vous allez vous hurler dessus, comme la semaine dernière, ce sera drôle. Enfin, nous, on passe un bon moment, quoi, de regarder des mecs en train de se hurler dessus. Mais c'est Guignol, je ne sais pas comment dire. Mais c'est systématique, quand même, dans la pièce. Entre elles ne se hurlent pas dessus. Enfin, même les sœurs, au début, qui finissent par s'engueuler, au début, elles se parlent, enfin. Même à plusieurs reprises dans la pièce, elles se parlent. Et puis, même Lina a inventé une chose que je trouve assez merveilleuse à la toute fin, c'est qu'au moment où, là, dans la mise en scène, un peu maladroitement d'ailleurs, Trissotin s'en va en menaçant tout le monde avec son pistolet, elle protège sa sœur. Mais comme par un réflexe, donc ça, pas, tout le monde ne le voit pas parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, mais le réflexe d'Armande, c'est de protéger sa petite sœur. Je trouve qu'il y a une différence quand même de positionnement très nette dans la pièce. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des hommes, on sait que ça va... On sait qu'ils vont sortir leur bite et leur couteau. Enfin, c'est instantané, quoi.
Oui, et peut-être pour revenir encore une fois à la scène entre Trissotin et les femmes, au moment où il lit le sonnet, la mise en scène suggère quand même ce déplacement vers le texte évite la sexualisation à outrance de la scène qui est assez traditionnelle. Pour suggérer que ces femmes ne s'intéressent pas tant justement à cette parade masculine permanente ou à cette rivalité masculine permanente devant elles, mais aussi qu'elles ont envie de lire et d'apprécier les textes. Et ça pose justement aussi la question du jugement des femmes. On sait qu'il y avait beaucoup de spectatrices dans le public de Molière aussi. Et puis que finalement, elles vont essayer de lire aussi le poème de Vadius, en laissant de côté les va-et-vient des deux acteurs. D'ailleurs, ça m'a étonnée qu'ils sortent de scène quasiment à un moment. On a l'impression qu'ils sont partis et puis ils reviennent. Donc ce choix est intéressant aussi, pendant qu'elles s'intéressent à autre chose ou réfléchissent sur autre chose.
Ça, par exemple, c'était, je crois, quand on le répétait, c'est qu'à un moment donné, avoir Vadius et Trissotin en train de se hurler dessus toute la durée de cette engueulade, c'était accablant, enfin, et l'idée qu'ils soient, d'abord l'idée qu'elles s'en foutent, qu'ils soient en train de se hurler dessus, moi je trouvais ça très joyeux, donc ils sont partis s'engueuler dans la rue, quoi, et elles sont en train de lire le poème de la fameuse balade, et elles vérifient s'il a bien mis le bon nombre de pieds, enfin, puisqu'on s'enquiquinait beaucoup avec ça pendant les répètes, donc c'était une autocitation comique aussi de nos propres problèmes, que ça ne les concerne pas beaucoup et que c'est pas central, en fait, je ne sais pas comment dire, cette rivalité masculine toujours qui en menace toujours d'en venir au meurtre, enfin, et une espèce comme ça de pulsion, de violence qui ne les concerne pas. Et c'est un peu reposant de se dire il y a un bout de la scène, on l'aura pas. On les verra pas. Parce que au fond, sinon, je ne sais pas comment dire, c'est ça qui occupe l'attention de tout le monde, c'est-à-dire la leur et la nôtre. C'est les hommes en train de se hurler dessus, alors que ce qu'ils se disent n'a aucun intérêt. Enfin, pas beaucoup d'intérêt. La partie, quand ils reviennent sur la question de l'auteur des satires, voilà, je laisserai l'analyse dire de quoi il s'agit, mais ça, c'est plus intéressant, même si c'est compliqué, j'imagine, à comprendre. Enfin. Mais sinon, le spectacle de la violence masculine, à un moment donné, c'était comme un soulagement énergétique pour nous de le sortir, quoi.
Alors peut-être justement une chose qui je crois est frappante, c'est qu'il y a plein de choses qui sont hors scène ou dans une sorte de moment un peu caché que le spectateur peut voir ou ne pas voir. Enfin, on déploie dans les espaces du plateau des choses qui ne sont pas dites. Alors peut-être il y a ce que Véronique avait relevé tout à l'heure et on a tous été, peut-être qu'on peut, sur la question justement des rôles masculins en fait, en particulier les personnages masculins font des choses un peu dans les coins de la scène et ça change quand même la perception qu'on en a dans la pièce et ce qui se joue aussi du coup, dans les couples, peut-être.
Oui, moi j'ai été très intéressée par les jeux de scène muets entre les actes, puisque les acteurs ne quittent pas la scène, mais on les voit interagir silencieusement et préparer la scène suivante. Et en particulier, j'ai trouvé ça très intéressant entre l'acte 4 et l'acte 5, où on voit que Clitandre et Ariste réfléchissent ensemble au stratagème que Ariste va mettre en œuvre à l'acte 5, en amenant deux fausses lettres pour mettre à l'épreuve Trissotin, la cupidité de Trissotin. Et le fait que Clitandre soit complice change vraiment la face du personnage, puisqu'il devient beaucoup plus trouble, puisque sa déclaration d'amour désintéressé devient du coup beaucoup plus problématique, pas forcément sincère, et que ça ouvre la porte à faire de Clitandre un personnage intéressé, dont on peut s'interroger sur les motivations à épouser une fille de la famille de Chrysale, et donc c'est une interprétation intéressante, me semble.
Je pense que, d'abord, je suis très heureux que ça ait été relevé parce que on a changé quelque chose hier soir sur cette séquence-là, parce que jusqu'à présent, on ne la voyait pas. Et les acteurs ont changé quelque chose entre eux, qui leur appartient d'ailleurs, parce que je leur ai juste dit ça ne se voit pas, il faut que vous inventiez un autre truc. Et ce qu'ils ont fait hier était beaucoup plus lisible. Ça reposait pas sur grand-chose. Je saurais pas décrire exactement, mais une autre façon de le figurer, de le montrer. Et donc c'était beaucoup plus lisible et visible. Mais c'est une idée qui m'était venue il y a quand même assez longtemps, parce que ce qui m'avait frappé très tôt dans la pièce, c'est une chose qui est dite à deux reprises sur le fait que Clitandre est fauché. Ariste le dit à Chrysale à l'acte 2, vous savez que de bien il n'a pas l'abondance, ce à quoi Chrysale répond, c'est un intérêt qui n'a pas d'importance, il est riche en vertu, cela vaut des trésors. Et à la toute fin, Henriette, et c'est encore plus troublant chez Henriette, je sais le peu de bien que vous avez Clitandre. Et si je vous ai toujours souhaité pour époux, c'est quand j'ai vu qu'en accommodant mes vœux les plus doux, notre hymen arrangeait vos affaires. Et quand même, la jeune fille de famille, elle est au courant, quoi. Hein, elle sait exactement pourquoi il l'épouse et tout ça. C'est très troublant, cette affaire-là. Donc, il vient faire un mariage d'argent, Clitandre, tout le monde le sait, y compris la personne qui l'épouse. Et donc là, il y a une critique qui tombe dans la pièce et qui ne fonctionne plus, c'est « Ah ben, Trissotin, il est méchant parce qu'il vient faire un mariage d'argent. » Mais les deux viennent faire un mariage d'argent, donc pourquoi il y en a un qui est gentil et l'autre le méchant ? Trissotin ne vient pas faire un mariage moins intéressé que Clitandre. Mais sauf que Clitandre, c'est intéressant, et Trissotin, pas. Alors moi, mon hypothèse, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai tendance à penser que Clitandre, comme il le dit lui-même, est un courtisan, donc on peut supposer que c'est un aristocrate, alors que la famille de Chrysale est une famille bourgeoise. Le mot est dans la pièce, un esprit plus bourgeois, mais c'est dans la didascalie aussi très importante, Chrysale, bon bourgeois, sachant, je crois, que le bon renvoie au fait qu'il est très riche. Ce que va dire Henriette à Trissotin, je sais qu'en m'épousant, vous espérez que je vous apporte en dot un bien considérable, donc... Ils sont blindés, quoi, la famille Chrysale-Philaminte. D'où le fait que leur ruine à la fin est quand même un événement. Enfin, ils sont en train de perdre des sommes. Je ne fais pas les calculs, mais en fait, c'est comme si Bernard Arnault payait des impôts, quoi, à un moment donné. C'est un peu de cet ordre-là. Donc, mais c'est des familles très, très riches. Enfin, bon, ils sont très riches. Donc, le gars, lui, Clitandre n'a pas d'argent, mais je pense qu'il a quelque chose à proposer à une famille bourgeoise qui n'a pas de titre. C'est titre contre argent. Donc désormais, Henriette, elle sera comtesse de machin truc, au lieu de s'appeler Henriette Durand. Et puis, Clitandre, il va pouvoir rénover la toiture de son château, puisqu'il n'avait pas d'argent pour faire ça. C'est un thème de série, on voit ça dans les séries parfois, les aristocrates fauchés qui épousent des riches héritières. Donc lui aussi vient faire un mariage intéressé. Donc ça changeait quelque chose. Mais pour que ça marche... Bah, il fallait bien qu'il soit au courant du fait que la ruine à la fin n'était pas une vraie ruine, parce que si c'était une vraie ruine, franchement, il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas comme Trissotin, de mon point de vue. bon, bah, excusez-moi, je vais aller voir la maison d'à côté, parce que là, certes, elle est mignonne, hein, Henriette, mais pas au point de l'épouser alors qu'elle a plus un centime, quoi. Et ce qu'elle dit elle-même, ce qui est fou, quand même. Alors ça, d'ailleurs, je finis juste, et puis après, je trouve ça assez beau que cette jeune fille qui commence la pièce en disant « Et qu'est-ce qu'à mon âge, on a de mieux à faire que de se marier ?» finisse la pièce en disant « Non ». Au moment où tout le monde dit « C'est bon, vous pouvez vous marier », elle dit non, elle redit non. Et on lui dit « Oui, mais s'il y avait de l'argent, vous seriez OK ?» Elle dit « Oui ». Et quand elle apprend qu'il n'y a pas de ruine, elle dit « Plus rien ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase, il n'a pas écrit une phrase où elle dirait « Ah, quel bonheur !» Son père dit « Le ciel en soit loué, je le savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ah, quel bonheur que mon sort est doux !» Elle ne le dit pas, jamais. « Quel bonheur que mon sort est doux !» Il ne lui fait pas dire ça. Il aurait pu. Elle ne dit pas ça.
Oui, je voulais justement rebondir juste si je peux sur cette fin et ce revirement final d'Henriette en lien effectivement avec le comportement intéressé de Clitandre. J'ai trouvé qu'à la fin, en fait, ça montrait à quel point, ça faisait résonner autrement les deux positions d'Armande et d'Henriette, parce que ça montre à quel point Henriette est enfermée dans une vision concrète et matérialiste des choses, où elle est en fait prise à son propre piège. C'est-à-dire que pour elle, le mariage, ce n'est pas un amour idéal, épuré, comme le dit Armande, mais c'est quelque chose de concret. Il va falloir vivre concrètement, avec des moyens financiers, la vie de tous les jours, et que si on n'a pas d'argent, ça ne va pas être drôle, et que l'amour ne sera peut-être pas assez fort pour surmonter ça. Et finalement, elle est un peu prisonnière et victime de cette vision très matérialiste de l'amour et de la vie. Alors que Armande, dans la scène où elle était face à Clitandre, elle lui a justement dit, alors que Clitandre avait reproché aux femmes savantes, a dit que c'était un scandale qu'une femme veuille être savante pour être savante, et elle dit un peu plus loin, on aime pour aimer et non pour autre chose. Donc elle prétend poursuivre le savoir de manière désintéressée, mais aussi aimer de manière désintéressée, ce que Henriette et Clitandre ne savent pas faire d'une certaine manière, et ça suggère aussi une forme de supériorité, enfin voilà, de la vision d'Armande, peut-être par rapport à Henriette sur ce plan-là.
Et pour oui aussi pour rebondir sur l'idée, enfin sur le constat qu'elle ne dit rien, il n'y a pas de consentement explicite, même si elle a au début évidemment anticipé ce consentement, mais dans la situation telle qu'elle se présente à la fin, elle n'exprime plus ce désir. Et moi, ça m'a rappelé la fin de l'école des femmes, parce que Agnès, elle ne consent à rien, et tout se fait en dehors d'elle. C'est un arrangement entre les hommes, et elle se trouve l'objet, l'enjeu de cet arrangement. Et au fond, est-ce que c'est une fin heureuse, l'école des... On ne sait pas. Parce qu'on a vu à quel point Horace était un être ambivalent aussi. Hein, enfin, on ne va pas développer l'analyse d'une pièce qu'on n'a pas vue récemment ensemble. Et là, je me demande, je ne sais pas si c'était un peu dans les perspectives du jeu des acteurs, de leur incarnation des rôles, que Henriette, ce qui la motive peut-être davantage, c'est de prendre sa revanche sur sa sœur aînée. Parce qu'au début, on voit bien comment, et ça l'actrice le joue très bien, elle triomphe en fait. Elle n'est pas dans ce personnage de naïve qui répond naïvement aux provocations de sa sœur. Elle joue avec la frustration de sa sœur, avec le fait qu'elle apprend, parce que c'est dans ce moment-là, comme tu disais, c'est ce jour-là qu'elle apprend qu'elle est supplantée auprès de Clitandre, qu'elle considère comme son amant, en termes précieux, galants. Elle est supplantée par sa propre sœur cadette. C'est un affront épouvantable. Et ça, Henriette en jouit. Et on le voit sur la scène. Hein. L'actrice, elle est très subtile dans son jeu. Et peut-être, alors je me demande si c'est pas ça qui l'anime, et de manière extrêmement dynamique, tout au long de la pièce. C'est-à-dire à prendre sa revanche sur la sœur aînée. Voilà. Et à la fin, l'enjeu a disparu.
Disons en tout cas que, une fois de plus, tout est écrit. Hein. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Donc sa sœur lui dit. Donc, c'est le jeu de scène, il est indiqué par la réplique, en fait. C'est pas complètement nous qui l'inventons. Mais bien sûr que chez Henriette, il y a « je vais me marier, c'est rigolo ». Ça, c'est la toute première image. Qu'on a fait, quoi. Ça, c'est le premier truc. Et après, c'est... et en plus, ça fait chier ma sœur. Donc là, ça, c'est évidemment, ça, c'est un argument supplémentaire. Mais au fur et à mesure que la pièce avance, je pense qu'il lui arrive une chose à Henriette, c'est que c'est pas tellement qu'elle veut épouser Clitandre, c'est qu'elle veut surtout pas épouser Trissotin. Et ça bascule, quelque chose bascule aussi dans sa propre urgence, qui fait que c'est pas tant qu'elle est portée par l'amour vers Trissotin, mais qu'elle veut échapper, pas par l'amour vers Clitandre, mais qu'elle veut échapper à Trissotin. Moi, je pense d'ailleurs qu'elle veut... Enfin, le choix des acteurs est pas anodin. Ils sont très beaux, quand même. Enfin, les deux, quoi. Ils sont quand même tous les deux extrêmement beaux. Donc, on peut pas les départager sur des critères... En disant, il y en a un qui est très appétissant et l'autre pas du tout. Enfin, en tout cas, moi je trouve pas. Mais bon, après chacun ses goûts. Mais je trouve qu'on les a mis, enfin, je veux dire, on les a mis à égalité dans le fait que on peut. J'espère que soir après soir, il y a des gens qui se disent, ah non, moi je préfère Trissotin. Enfin, je ne sais pas, ce serait possible. Elle dit le savoir, tout ça, les beaux mots, tout ça m'ennuie. En fait, ce à quoi joue sa mère, sa sœur et sa tante, ça a l'air de. Elle a pas envie de jouer à ça. D'ailleurs, elle a une jolie robe qui brille. Et moi, je pense qu'elle a des ambitions qui sont plus proches de celles de Clitandre. Quand Clitandre dit « Je ne peux pas me déshonorer en ayant l'air d'aimer Trissotin pour faire la cour à votre mère et à votre tante », ce qu'il dit à Henriette au début de la pièce, c'est très précis. C'est-à-dire, si dans le monde que fréquente Clitandre, on sait qu'il a dit quelque part que Trissotin avait du talent, alors qu'il est considéré comme un ringard ultime dans les milieux snobs que lui fréquente, il est mort socialement. Et Henriette, elle n'a pas du tout envie de la mort sociale, absolument assumée par sa mère, sa tante et sa sœur, que je trouve encore une fois héroïque, parce que vous avez parlé d'une chose fondamentale qui est leur désintéressement. Elles sont au-dessus d'énormément de choses, mais dans une forme de liberté incroyable, notamment elles ne sont absolument pas soumises au jugement social. Ce qu'on pense d'elles a l'air de n'avoir aucun... De folles, on vous traite... leur dit Chrysal. Chrysal ne leur dit pas « Vous êtes folle ». Il dit « On dit partout que vous êtes folle ». Et on voit que ça leur est égal. On voit que ça leur est égal d'être ruiné. On voit que ça leur est égal de jamais jouer le jeu social comme il faudrait qu'il soit joué si elles étaient vraiment des femmes de leur... Bélise, Armand, défilent la main de traîtresse à leur classe, quoi. Moi, je les trouve intéressantes là-dedans, c'est qu'elles ne jouent absolument pas le jeu que des femmes de leur classe sociale devraient jouer. Elles ne jouent pas dans les règles de ce jeu-là, elles jouent tout à fait à autre chose. Alors parfois on peut trouver ça excessif, ridicule, même fanatique, mais au moins c'est rigolo, quoi. Enfin, au moins elles font autre chose. Et je crois qu'Henriette, elle n'a pas du tout envie de passer pour la folle comme les autres. Épouser Trissotin, c'est pas tellement savoir si le gars en question est envisageable ou pas, c'est que c'est une mort sociale d'épouser un type comme ça. Elle sera reçue nulle part. Elle mettra pas les pieds à la cour. Si elle épouse Clitandre, je sais pas, le roi sera au mariage, enfin, j'en sais rien. Ou en tout cas, elle épouse Trissotin, elle sera dans les salons de sa mère et de sa tante. Ce que lui dit sa sœur au début, mais restez avec nous, vous allez voir, c'est formidable. Mais elle, c'est pas ça dont elle a envie. Je me dis qu'au fur et à mesure que la pièce avance, quand elle commence à comprendre ce que c'est pour de vrai Clitandre, parce qu'elle le voit quand même fonctionner sous ses yeux à plusieurs reprises, au moins à la fin, elle se pose la question. C'est-à-dire de savoir si sa sœur avait pas raison au début, te marie pas, c'est un piège. Et si le dernier mot de sa tante n'est pas une prophétie qui la concerne, par un prompt désespoir, souvent on se marie, mais elle s'est peut-être mariée par désespoir, celui d'avoir à éviter d'épouser Trissotin, qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie, et ma foi, ce que va être le trio, comment va vieillir le trio Clitandre, Henriette, Armande, probablement sous le même toit, jusqu'à la fin de leur jour, ben bon courage les amis, quoi.
Oui, si on revient sur le couple des deux sœurs, il semble que bon, Henriette ne dit plus rien à la fin, c'est vrai, mais j'ai quand même le sentiment qu'elle fonctionne en binôme et que ce binôme jusqu'à la fin a pour fonction aussi, indépendamment de leur individualité, de poser la question se marier ou pas. Et le mettre sur scène avec toutes les virtualités scénaristiques et dramatiques et spectaculaires que cette question peut contenir. En elle-même, en tant que question, sans qu'on ait forcément une réponse fixe à apporter à la question. Bon, déjà, voilà.
Et hier soir, on avait une discussion avec la comédienne qui joue Armande. Parce que jouer un rôle comme Armande, il ne faut pas se tromper, ça tabasse, hein, en tant que comédien. Parce que on a l'impression, comme ça, qu'on joue des rôles et tout ça, mais tous les soirs, avoir votre partenaire qui vous dit « Il n'est plus temps, madame, une autre a pris la place », avoir votre petite sœur qui vous fait nanani nananer, je l'ai eu et pas toi. Jusqu'à la toute fin, la mère qui dit bah, on n'a qu'à marier ces deux-là, le père qui dit oui, pourquoi pas, et finalement non, ça rate. Enfin, la suite de ratage et de porte dans la gueule que se prend ce personnage, ça laisse pas indemne. Hein. Faut pas croire qu'il n'y a pas de confusion entre les personnes et les personnages, bien entendu, mais tout de même, jouer un rôle, ça a des effets. Donc on se parlait de ça, et je lui disais, écoute, je t'en rajoute une dans ta besace au titre de la cruauté, c'est la question de l'aîné et de la cadette. Moi, je pense qu'il y a un truc sur l'aîné et la cadette. Je fais un petit moment comme ça, Psychologie Magazine, rapide. Aîné et cadette, trouvez votre place dans votre fratrie. C'est que moi, j'ai l'impression parfois que Armande, je m'excuse par avance auprès des aînés et des cadets qui sont présents dans cette salle et qui vont trouver qu'à partir de cet instant, j'ai commencé à dire n'importe quoi. Mais cette précaution étant prise, je commence à dire n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle a cette truc d'aîné qui est faire absolument parfaitement ce que les parents espèrent. Alors pas papa, parce que papa c'est foutu, il s'intéresse à d'autres trucs apparemment, à la bonne notamment, visiblement. Bon bref, j'allais faire un commentaire bizarre, mais je ne l'ai pas fait. Donc au moins maman, quoi. Au moins maman. Et en fait, elle va bien au-delà de ce que maman espère. Parce que sa maman, elle veut qu'elle soit une savante, mais elle n'a jamais dit qu'il fallait qu'elle devienne une moniale. Elle n'a jamais dit qu'il fallait renoncer à tout, au monde, au mariage et à toute chose. Donc elle va plus loin que sa mère, ce que lui dit sa sœur au début. Elle lui dit, mais maman, elle s'est mariée, hein, elle a fait des enfants, personne ne t'a demandé d'aller jusque-là. Donc elle fait ça, et ben malgré tout, elle n'a pas l'attention de sa mère, c'est la cadette qui l'a quand même. Malgré tout, l'attention de Philaminte, elle est sur Henriette, et je suis inquiète qu'il n'y ait pas d'esprit en vous, et qu'elle la tient par la main, et elle l'a fait venir dans la scène du sonnet, et dans la scène du sonnet, on se disait avec Anne, c'était compliqué tout le discours de Philaminte, etc., jusqu'à ce qu'elles inventent cette chose, toutes les deux, qu'elle fait tout ça pour Henriette. En fait, tout est une leçon pour Henriette. C'est Henriette le centre de l'intérêt. Et vous savez, avec ce truc de « oui, mais toi, t'es la grande, donc la petite a droit de faire un caprice. Oui, mais non, mais toi, c'est normal, t'es formidable, tu le sais déjà. Mais regarde l'attention qu'on doit porter là. » Et pour Armande, enfin, je veux dire, j'avais écrit à un moment donné, le comique du rôle, horriblement, vient de ce que c'est un personnage de tragédie paumé dans une comédie. Et de temps en temps, certains soirs, quand son amant lui lâche la main, des gens rient. Il faut se le manger quand même. Tant mieux, hein. Si on fait une comédie, on est content chaque fois que les gens rient, mais le rire a toujours un fond de cruauté. Bon, voilà, quoi.
Oui, juste un mot concernant Henriette et sa place dans la famille, en fait, on a quand même, au fil des scènes et des prises de parole d'Henriette, la conviction qu'elle n'a pas été complètement étanche aux leçons de philosophie, parce qu'elle sait très bien ce que c'est qu'un stoïcien. Et elle essaie d'inculquer à Trissotin, d'enjoindre à Trissotin de jouer son rôle de sage en se détachant d'une situation où il n'a pas sa place, en acceptant, en prenant sur lui, etc. Donc elle a parfaitement intégré ce que c'est que la leçon de philosophie que sa mère, qui adore les stoïciens, etc., a transmise. Mais ce n'est pas son truc. Tu dis, c'est pas son truc, elle veut pas se développer dans ce cadre-là, dans cette ambiance. Elle n'a pas, il n'y a pas un enjeu vital pour elle. Donc, elle a intégré les choses, elle n'est pas sotte, elle n'est pas étrangère à la philosophie comme sa mère veut le lui faire entendre pour justifier qu'elle la marie à Trissotin, etc. Donc, c'est un personnage plus complexe, finalement, que ce à quoi on la réduit ordinairement.
On peut dire d'elle ce qu'on dit de tous les autres, au fond, c'est qu'elle aussi, elle a des moments extrêmement brillants, notamment sa confrontation avec Trissotin, évidemment, mais il y a d'autres moments dans la pièce quand elle dit « ma mère, je suis très contente d'être bête », et évidemment, elle est tout sauf bête. Dès la première scène avec sa sœur, elle a une puissance rhétorique qui n'est pas moindre que celle d'Armande, même ses arguments, d'une certaine façon, finissent par porter presque davantage, enfin, donc elle est extrêmement intelligente, cultivée, brillante, enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne l'empêche pas aussi d'être intéressée, mesquine, jalouse. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la pièce, vraiment. C'est que Tu disais tout à l'heure que ça, elle était présentée autrefois, et moi je crois que quand on nous enseignait les femmes savantes, c'était aussi la même chose pour Clitandre et Henriette comme le couple édifiant de la pièce. Donc je crois qu'on s'est déjà bien dit là que c'était pas quand même si simple que ça, mais ça n'empêche pas que l'un et l'autre aient des moments splendides au fond. Dans la confrontation avec Armande, moi je suis team Armande, hein, vous l'aurez compris, mais malgré tout, parce que je trouve ça merveilleux de en fait, parce que je pense que ce cas, il me semble, Armande, c'est pas la question de l'amour physique, ça c'est même si c'est ça qu'elle exprime, le refus du corps, etc. Parce que ça permet d'en faire une sorte de frigide suspecte, quoi. Ah là là, c'est de ça dont elle a peur, hein. Oui, c'est bien de ça dont il est question. Non, elle veut pas d'enfant. Elle veut pas d'enfant. Et ça, c'est quand même une décision d'une grande. Et elle veut pas d'enfant aussi, on s'en parlait tout à l'heure, parce que faire un enfant, ça veut dire quand même aussi mourir, hein, à l'époque. Enfin, en tout cas, le risque, mourir en couche, c'est quand même bon, un risque maximum. Donc, elle, c'est ça dont elle veut pas. Et donc, Clitandre, de son côté, qui lui dit « Oui, mais moi, un amour sans famille, sans enfant, sans tout ça, on peut l'entendre dans ce que ça peut avoir de beau, d'humain. Voilà, » c'est tout d'un coup, c'est un débat très, très concret qu'on peut vraiment entendre comme un débat presque moderne, enfin, aujourd'hui, qui pourrait être dans un couple aujourd'hui. Enfin. Et puis, en même temps, du côté de Clitandre, évidemment, que lui, s'il a un nom à transmettre, il est hors de question de ne pas faire d'héritier, au risque de tuer sa femme, hein. Et que ce sera beaucoup plus important d'avoir un enfant, de préférence mâle, auquel transmettre son titre, que de prendre le risque d'un amour platonique toute sa vie, aussi intense et tantrique soit-il. Et donc, il n'est pas prêt à sacrifier grand-chose sur l'autel de l'amour, et c'est bien ça exactement qu'Armande lui reproche.
Oui, la question fondamentale, on tourne autour depuis tout à l'heure, c'est la question des valeurs. De la valeur de ce qui vaut. Et si le savoir, on lui tourne autour en courant autour des bibliothèques, c'est aussi parce qu'il s'échange ou pas, alors, avec de l'argent, don contre don, mais aussi avec du goût. Enfin, il me semble que l'argent est en concurrence ou rencontre difficilement le goût, la question du goût, ce qui est goûté dans ces différents milieux sociaux qui sont proposés. Ce qui est plus ou moins grossier, ce qui est plus ou moins civil, plus ou moins galant, plus ou moins beau, plus ou moins esthétisé. Et ce conflit-là, je crois que c'est un des conflits fondamentaux dans la pièce. Et moi, il m'a semblé que ça ressortait très fort de la mise en scène.
J'ai l'impression que cette affaire, elle est compliquée parce que très compliquée même, parce que elles ont l'air, notamment Bélise Armande et Philaminte, d'être des sortes d'arbitres du bon goût, mais j'imagine que ce qu'on leur fait dire, c'est souvent un peu des fautes de goût en même temps. C'est-à-dire que si elles avaient vraiment bon goût pour ce qu'est le goût du public de l'époque, elles ne seraient pas aussi à cheval sur les principes, parce que ça c'est plutôt une faute de goût. Elle n'aimerait pas tant la poésie de Trissotin, parce que ça c'est aussi une faute de goût. Elle mélangerait pas les sciences, les arts, les épicuriens, les stoïciens, Descartes. C'est quand même très bizarre de dire Épicure me plaît et de dire Descartes dans la même phrase. Enfin, philosophiquement, je ne suis pas un spécialiste, mais mettre dans la même phrase un philosophe dualiste et un philosophe matérialiste, ça ne paraît pas très cohérent. Donc je pense que pour un public un peu lettré, ce qu'elle raconte, c'est le bordel. Donc elles accumulent les fautes et les erreurs. Et pourtant, une fois qu'on a dit ça, les concernant, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire là où elles sont joyeuses, c'est qu'elles ont l'air un peu de s'en foutre. Et je trouve que ça leur donne beaucoup de force, ça. De la même manière qu'elles se fichent d'être ruinées à la fin, quoi. En tout cas, Philaminte et Bélise, sans doute, parce que Philaminte, je trouve ça merveilleux, quoi. Et perdant toute chose, à soi-même, il se reste, enfin, à propos du sage. Ou quand elle dit le corps, cette guenille, enfin, cette espèce de détachement. À quelque chose je suis sûr qu'il est sincère, je ne doute pas une seconde qu'il soit sincère. La comédienne Anne m'a dit mais oui, bien sûr, elle est très malade, elle va bientôt mourir. C'est des secrets d'acteur, moi je ne lui ai pas dit ça, hein, mais elle m'a dit oui, bien sûr, elle n'a plus rien à foutre de rien, elle c'est terminé. Donc, elle est déjà ailleurs, en fait, elle est déjà. Elle sait pas ce qu'elle joue, je ne dis pas que c'est la vérité de la pièce, ni rien. C'est simplement tout d'un coup la radicalité qu'on peut se donner face à un personnage pour comprendre certains de ses énoncés, ou. Bon, je ne sais pas. Si c'est la vérité du rôle. Mais par ailleurs, bizarrement, j'ai l'impression, mais ça je laisse une hypothèse et je, Je serais heureux de vous entendre sur cette hypothèse. Toutes ces fautes de goût, notamment dans leur syncrétisme, dans leur façon de tout mélanger à l'endroit du savoir, moi, me semble les faire soit les mémoires des humanistes de la Renaissance, qui étaient à la fois, je sais pas quoi, Léonard de Vinci, quoi. On est aussi bien mathématicien, poète, peintre, enfin, on peut tout être. Ce qu'elle dit, là, Philaminte, dans son discours. Mais aussi des encyclopédistes, un siècle plus tard, ceux-là même qui vont faire la Révolution française. Et à ce moment-là, moi, ce salon, qui échappe à la cour, c'est bien ce que vient de leur dire Clitandre, en leur disant, je sais très bien que vous n'êtes pas sous nos radars, mais sachez qu'on vous surveille, on vous connaît, on sait où vous êtes, on lit vos livres et on en pense un truc, et on ne vous donnera pas de subvention. Le mot n'est pas dans la pièce, hein. C'est une spéciale dédicace à bien des gens. Donc il y a ce salon, mais comme ça un peu libre, un peu clandestin. Et dans ce salon, Trissotin, le poète ridicule, dit au jeune courtisan la chose suivante. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a grand intérêt d'appuyer l'ignorance. Et ça, moi, je trouve que cet énoncé, en 1672, sur la scène, même s'il est fait pour faire rire les courtisans qui se disent « Haha, la bonne blague, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces bourgeois », n'empêche que quand un siècle plus tard, dans ces mêmes salons, des philosophes commenceront à dire la même chose, on sait comment ça finira. Alors moi, je ne veux pas transformer Molière en prophète, mais je suis toujours très frappé là, dans cette conjoncture-là, que ces personnages ridicules qui mélangent tous les savoirs et qui disent des choses des sottises sont presque déjà la préfiguration d'un salon philosophique encyclopédiste de la fin du XVIIIe dans lequel est en train de se fomenter 1789. Quoi. Donc là aussi, elle me semble, elle, face aux courtisans, est éminemment moderne et que de temps en temps, la phrase que tu rappelais tout à l'heure, je veux nous venger tout, je sais pas, Olympe de gauche, quoi. Enfin, il y a un truc dans certains de leurs énoncés, ouais, et dans leurs énoncés qui annoncent autre chose, quoi.
Alors peut-être pour rebondir sur ça, sur cette question d'un savoir encyclopédique, alors vous ne voyez pas, mais en fait, par exemple, Philaminte va en les faire avec une sorte de petit rat qu'elle va mettre dans une espèce de formule. Enfin, il y a toute une dimension qu'évoquait aussi Delphine tout à l'heure de côté empiriste, etc. Et en fait, ce qui me paraît très intéressant, c'est en fait la joie de vivre de ces dames qui sont très heureuses. Enfin, je veux dire, on leur dit qu'elles sont folles et qu'elles donnent la comédie, mais en fait, elles sont très épanouies. Enfin, je veux dire, finalement, ça fait quasiment un gynécée très satisfait. Et somme toute, il n'y aurait pas des messieurs pour leur casser les pieds, la vie serait très heureuse. Enfin, je dirais, elles lisent des poèmes, elles font des expériences, elles révisent la grammaire, elles trouvent que Vaugelas c'est formidable, bon, grand bien leur fasse. Mais je veux dire, en l'occurrence, elles sont très épanouies. Et en fait, il y a une sorte de modèle alternatif, si je puis dire, en tout cas, qui se dégage sur le plateau et qui se dégage aussi grâce à l'énergie du plateau, des comédiennes, de la dynamique collective, je crois, qui est enclenchée. Alors, c'est quelque chose dont je me permettais, parce que certains des comédiens sont des anciens élèves de l'école et qu'ils sont forcément chers à mon cœur. Mais en fait, ça crée une sorte de dynamique collective, de familiarité dans l'équipe de la troupe qui fait qu'on n'a jamais le sentiment que des acteurs jouent les uns contre les autres. On voit toujours des acteurs jouer ensemble. Et du coup, se crée quelque chose de, enfin, j'ose pas dire subversif politiquement, mais un peu aussi même par rapport à une tradition de jeu de plateau où, en fait, normalement, l'acteur défonce son rôle au lieu de jouer la pièce, enfin, ou parfois au détriment du fait de jouer la pièce. Et là, il y a une espèce d'énergie collective qui fait que finalement, il y a une sorte de dynamique qui l'emporte et qui rend ce salon assez réjouissant. Et ça pose la question quand même de la scène que nous n'avons pas évoquée, mais qui est quand même importante, qui est soit la scène du sabbat, soit la scène de la divination, de l'astronomie, enfin que sais-je, mais qui est une scène extrêmement intéressante, qui n'est pas dans le texte, mais qui donne à voir quelque chose de l'activité de ces jeunes femmes, d'un rapport au savoir, d'une expérimentation et peut-être aussi d'une aspiration à une espèce de verticalité, enfin, qui n'est pas que justement la grammaire ou la langue.
J'ajoute une chose que tu dis, elles ont l'air heureuses, elles ont l'air joyeuses, enfin, tant mieux évidemment, mais je pense aussi que elles font des choses extrêmement subversives, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le texte, hein, donc je l'invente pas. Elles empêchent la maison de fonctionner comme elle devrait fonctionner, et notamment, elles empêchent les serviteurs de travailler. Alors ça, comme point de subversion, c'est-à-dire c'est quand même dingue. Je rappelle, hein, 1672, il y a des femmes dans la maison, elles vont en cuisine, et elles disent à la bonne, pose tes casseroles, on va faire de la grammaire. Elles disent aux laquais, lisez des poèmes, et arrêtez de faire le service. Et il y a cette phrase extraordinaire, j'entends les gens rire et je ne sais pas de quoi on rit à ce moment-là. Mais je ne le sais pas. C'est-à-dire, vraiment, je ne sonde pas les reins et les cœurs. Je me dis, est-ce que j'assiste à un rire réactionnaire ou à un rire progressiste ? J'ai des serviteurs et ne suis pas servi, dit Chrysal. Et je pense que la salle rit en se réjouissant de cette avancée révolutionnaire majeure qui est que ces femmes ont réussi à empêcher le fonctionnement ancillaire de la maison. Les serviteurs ne servent plus. Franchement, alors là, excusez-moi, mais quel meilleur progrès ? Il y a une sorte de mise en grève passive des serviteurs de la maison par la seule présence de ces femmes qui les obligent à faire autre chose, jusqu'à les virer quand elles veulent pas faire autre chose. Elle veut pas faire de grammaire, elle veut continuer à faire la cuisine, tu sors. Alors ça, c'est la tendance extrême-gauche de pour moi, des femmes savantes. C'est leur côté Mao, quoi. C'est leur petit côté maoïste. Voilà, c'est un peu toujours le... C'est vrai que quand vous vous engagez un peu activement dans un mouvement d'émancipation, vous pouvez vous réveiller un matin et vous vous êtes transformé en procureur. Bon, ça, c'est la réalité de beaucoup de mouvements d'émancipation. Donc, Molière, en philosophe sceptique, nous le rappelle toujours au passage, de se dire attention, parce que ça finit mal, quoi. Alors moi, j'ai toujours l'impression que s'il dit ça, c'est parce qu'il sait très bien que les mouvements qui se fanatisent ont fini par brûler des gens. La Saint-Barthélemy, c'est pile un siècle avant. Enfin, je crois qu'il y a des mémoires comme ça qui restent. Toi. Mais elles sont subversives de ce point de vue-là. Donc elles sont à la fois joyeuses et elles bordélisent la maison, quoi. C'est pour ça que moi, j'adore Philamante quand son mari lui dit on va marier la cadette, et elle lui répond et ce sera ton pire cauchemar. Et c'est simplement ça, c'est-à-dire tout bloqué. On bloque tout. Bloquons tout. Il y avait ça pendant qu'on répétait. Bloquons tout. Et je disais, on disait avec Marion, je dis ça parce qu'elle est là sur le rapport à Clitan, projet de mariage. Réponse de Bélise, bloquons tout. Qu'il arrive, il dit, je veux me marier. Tu n'y arriveras pas. Je ferai tout pour t'en empêcher. Je ne sais même pas ce que tu me veux, mais je t'annonce d'emblée que je ferai tout pour t'en empêcher, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que ton projet est conservateur, réactionnaire, patriarcal, etc. etc. Donc elles mettent un bordel dans la main. Et donc, j'enchaîne là-dessus. Ben, tout à coup, débarquer au milieu du salon dans lequel on est censé faire des réceptions, manger des huîtres et boire du champagne, pour dire ben, nous, on va faire un sabbat. Je pense que c'est à la fois très sérieux, c'est mettre très haut le savoir, c'est en faire quasiment l'amorce d'une foi, d'une religion, et c'est ce que je trouve très beau chez ces personnages. Et en même temps, c'est un énorme foutage de gueule. C'est-à-dire que ce que je trouve important, c'est pas tant la cérémonie qu'elles ont, mais le fait que Chrysal soit obligé de se barrer parce qu'il sait qu'elles vont faire ça et qu'il supporte pas de les voir faire ça. À une époque, il les regardait, il se baladait autour et il assistait à tout ça et il était effrayé de voir la place qu'elles prennent dans la maison, quoi. Et pour faire des choses qui ne sont pas du tout ce que des femmes sont censées faire dans une maison. Et Dieu sait pourtant qu'il l'a rappelé à l'acte 2 ce qu'elles étaient censées faire. Il a fait la liste, hein. Et bien, une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'il a fait la liste, elles lui disent, eh bien, tu sais pas, on va faire... pas du tout ça. On va faire des tas de trucs plus bizarres les uns que les autres, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que ça ne fera rien de ta liste. Voilà.
Alors l'histoire de la bonne virée, elle est plus complexe dans la mise en scène que celle qu'on peut lire littéralement dans certaines versions du texte ou de la mise en scène du texte. Et il faut peut-être spoiler encore une fois, ou divulgager, comme tu dirais, Zoé. La portée subversive ou le rôle subversif des femmes de la maison va jusqu'à virer la bonne, mais pour son bien, si je puis dire, puisqu'on comprend, en fonction des jeux de scène qui sont choisis et mis en scène, que Chrysal se comporte en harceleur, on peut dire ça comme ça, à l'égard de la bonne, de la domestique. Et donc c'est aussi un choix qui renforce cette vision-là de la pièce.
Bah, disons que oui, évidemment, Chrysal couche avec la domestique, oui, bien sûr, ça va de soi.
On voudrait.
Oh non, je crois que j'en sais rien, mais en tout cas, elle est là, elle est à disposition, elle fait partie des meubles, hein, donc bon, c'est comme les huîtres, quoi.
On pourrait peut-être rester dans l'ambiguïté ou dans le.
Moi, je pense.
dans le harcèlement.
Mais je pense sincèrement, si là je suis en 1672, je pense que c'est pas un sujet, c'est-à-dire maître et seigneur, quoi. Ça s'appelle le droit de cussage, c'est extrêmement simple, le rapport d'autorité fait que, etc. Puis elle est précaire, hein, donc si elle n'est pas là, elle n'a quand même pas beaucoup d'éléments pour se protéger et se défendre. Alors, j'exagère un peu en disant Bélise et Philamante la mettent à la porte pour lui sauver la mise. Je veux le croire un petit peu, mais il y a ça. Il se passe une chose, le personnage, c'est-à-dire on ne peut pas être progressiste jusqu'au bout. Quoi. C'est, et évidemment, Molière n'est pas Brecht. Alors parfois on le regrette, on se dit il faudrait que ce soit Brecht et qu'à la fin, la figure populaire, le prolétariat, quand le prolétariat prend la parole, il vienne dire une chose impeccable. On en rêverait. Brecht l'écrit. Alors quand Matti parle à la fin de Maître Puntilla et son valet Matti, il vient dire une chose impeccable. Un vrai maître, on en aura un lorsque chacun sera le sien. Dernière phrase de Matti, pas de problème, pouvez entonner l'international derrière, on est bien. Et là, la figure populaire, à la fin, elle vient dire le truc le plus immonde de toute la pièce. Si on l'ouvre, il faut quand même nous faire taire à coups de baffe, quoi. Ça se finit comme ça. Hier soir, il y avait une dame au premier rang qui disait « Bien dit !» chaque fois que Martine... Comme quoi, les masculinistes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Et que le masculinisme n'est pas un phénomène genré entièrement. Bon. Pas complètement genré. Donc tout d'un coup, on donne enfin le crachoir à la figure populaire et pas de bol, c'est une tradwife trumpiste. Alors là, c'est le moment mélancolique pour l'artiste de gauche qui a espéré faire l'éloge de la... Bon, alors je vous avoue qu'en même temps, par les temps qui courent, tant pis pour la mélancolie, mais si on avait une figure populaire porteuse d'un discours d'émancipation, on n'en serait pas là. Enfin, donc moi, j'ai pas tellement de problèmes sur le fait que la figure populaire, à la fin, dise des trucs, on se dit on est mal barré. Parce que les amis, là, tout de suite, on est mal barré. Donc, oui, le peuple n'est pas toujours progressiste. En ce moment, je crois qu'on peut le vérifier à pas mal d'endroits. Donc, et ça, c'est la mélancolie des intellectuels bourgeois. L'intellectuel bourgeois devient gravement mélancolique puisque le peuple n'est pas spontanément progressiste. Et qu'on a beau lui faire lire Vaugelas ou Marx à coups de pompe dans le cul, ça rentre pas. Ça, c'est les Mao dans les usines dans les années 70, quoi. On leur a raconté Marx toute la journée et ils en avaient toujours rien à foutre. Bon.
Oui, peut-être juste pour rebondir sur Martine à la fin. Ce que j'ai trouvé frappant aussi, c'est qu'elle, en fait, elle parle à la place de Chrysal. Enfin, Chrysal n'est pas capable de répondre, en fait, et d'avoir des arguments sensés. Et du coup, c'est elle qui a la parole, mais en même temps, elle est ridicule d'une certaine manière parce que c'est la servante qui parle. Elle parle à la place du maître. Et puis, elle tient ce discours effectivement hyper choquant, mais elle le dit dans des termes qui sapent en même temps le sérieux de son discours. Quand elle dit « la poule ne doit point chanter devant le coq », bon, c'est quand même des termes très vulgaires, très terre à terre. Et je trouve que ça rejoint un des paradoxes et aussi un des coups de génie de Molière, qui est le fait de placer la défense du patriarcat et de la domination masculine dans la bouche des femmes. Il y a aussi Henriette elle-même qui réclame que son père impose sa loi et la force à épouser celui qu'il a choisi, alors que d'habitude c'est exactement le contraire, y compris dans toutes les comédies de Molière. Et donc il y a ce jeu aussi qui surprend le public et qui est une espèce de voilà aussi de connivence et de pour montrer enfin pour faire le contraire de ce que la comédie fait habituellement et jouer avec les formes, les stéréotypes, les clichés de ce genre de scène en déplaçant complètement, en inversant les rôles, en proposant une sorte de monde à l'envers aussi qui forcément fait rire.
Et aussi il y a dans le rapport qui est instauré sur scène, comme le soulignait Delphine, entre Chrysal, le maître de maison, et la servante. Hein, et donc, tu dis que c'était monnaie courante à l'époque, on trouve ça dans les romans, etc. Dans certains dialogues, Molière n'invente pas une situation qui est là, bien installée dans la culture de l'époque, mais on a des linéaments de l'histoire à la fois érotique et intellectuelle de Chrysal, puisque il nous apprend qu'il a été à Rome, qu'il a fréquenté avec le père de Clitandre, qui était son meilleur ami de l'époque, les dames romaines, et que alors ces dames romaines, c'est ambigu, parce qu'à la fois c'est des courtisanes de Rome, hein, qui avaient dans leur clientèle évidemment tout le personnel du Vatican, les évêques, les cardinaux, etc. Et aussi, elles tenaient salon, hein, ce n'est pas des prostituées de bas étage, elles tenaient salon et il y avait des transferts culturels qui s'opéraient dans ces milieux-là. Donc Chrysal a été peut-être un homme attiré par le savoir, par les arts, par les belles manières, un homme de goût, hein, quand il a fait ce voyage à Rome, qui est aussi un voyage culturel à l'époque, on le sait, et il a aussi eu une expérience érotique peut-être raffinée, et là, il est rentré chez lui, il vit de bonne soupe et non de beau langage, et il couche avec la servante. Il a tout à sa disposition. La bonne soupe, c'est le confort domestique. Il a tout sous la main. Il ne veut pas que ça bouge. Il ne veut pas qu'il y ait de contrariété. Or, voilà, comme on vient de le dire, c'est le bordel chez lui, mais au sens désordonné du terme.
Mais peut-être pour rebondir là-dessus, il y a une chose qui est très frappante, c'est qu'en fait, c'est une comédie où finalement les parents triomphent. Alors qu'on a quand même beaucoup de comédies où, chez Molière en général, on a le sentiment, en tout cas peut-être ça se nuance, mais enfin que la jeunesse finalement l'emporte, dans Le Malade Imaginaire par exemple, c'est quand même ça qui se passe. Et là finalement, en fait, dès le début, c'est Armande qui dit « Ah mais il faut demander à tes parents ton accord pour se marier ». Et là on se dit « Mais zut, moi je pensais qu'elle était émancipée, cette jeune fille lettrée, cultivée, intelligente, moderne. Pouf, le mariage c'est avec le consentement parental. » Et puis à la fin, Henriette la rejoint là-dessus, elles sont entièrement d'accord toutes les deux. Le mariage, il faut l'accord des parents. Et en fait, finalement, c'est un peu la jeunesse qui se fait, qui triomphe sur le plateau, mais qui dans le texte est quand même un peu menacée, me semble-t-il, de... Finalement, la jeune fille qui pensait s'émanciper par le savoir, elle se retrouve toute seule et je ne suis pas sûre qu'elle... elle n'a pas l'air très heureuse. Et l'autre, on n'est pas sûr qu'elle ait un mari si sympa que ça. Et finalement, c'est les parents qui l'emportent. C'est par-delà, là aussi, peut-être l'alliance, effectivement, de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui l'emporte. Et ça pose un peu la question de qui triomphe à la fin de la pièce et comment est-ce qu'on s'en sort, sinon par la comédie, par le pied de nez, par le... une fin qui est très, très, très artificielle, enfin, avec l'espèce de choses inventées qui permet le mariage, et puis tout finit bien.
Mais on disait que Molière était un acteur sans doute génial, pour ce qu'on en comprend, on en sait, en tout cas, avec un succès phénoménal, un auteur de comédie extrêmement brillant et roué, connaissant très bien son affaire. Mais c'est aussi j'ai l'impression que c'est aussi un philosophe. Et je pense que s'il est philosophe, pour le meilleur et pour le pire, en fonction des jours, pour moi en tout cas, c'est un philosophe sceptique. J'ai l'impression que c'est quand même une philosophie très sceptique. C'est une philosophie, je sais pas, moi j'ai l'impression d'entendre un peu Montaigne peut-être, ou une forme de méfiance, de prudence. C'est ça qui peut d'ailleurs faire dire de temps en temps qu'il est conservateur ou qu'il est... d'ailleurs, ce serait un peu bizarre qu'il soit autre chose au moment où il écrit, ce serait un peu un contresens historique de l'attente de lui, autre chose que ça, mais en même temps, sa philosophie de la vie, on pourrait presque dire, est un peu pessimiste, en tout cas un peu sombre, pas complètement noir et désespéré, je suis pas très sûr de ça, parce c'est vitaliste, c'est joyeux, c'est vivant, c'est drôle, il y a de la vie dans tout ça, mais en même temps... le constat général est quand même un peu, sceptique, quoi. Donc là, en l'occurrence, j'avais jamais pensé là comme tu viens de l'énoncer, donc c'est très juste au fond. C'est la première fois que les jeunes gens essaient de se planquer derrière les parents pour obtenir quelque chose, alors que dans énormément de pièces de Molière, ils font tout pour s'affranchir de la tutelle parentale. L'avare, c'était bien la grande question. Moi, j'ai monté les Fourberies de Scapin aussi, Tartuffe, donc c'est les pièces que j'ai montées, effectivement. C'est un conflit de génération dans lequel... Alors là, le conflit, il est intra-générationnel. Parce qu'en fait, il y a des alliances objectives entre Armande Philaminte et Henrietta Crisal. Donc là, on voit bien comment est-ce que les enfants, enfin les filles, jouent l'autorité parentale stratégiquement pour faire valoir, prévaloir leur propre intérêt. Enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un peu sans doute la dernière image qui est venue comme ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas particulièrement prémédité. C'est une photo de famille, donc la dernière image, et on se dit, comme m'a dit ma mère en sortant, la famille c'est l'enfer, non ? C'était bien venant de ma mère, je trouvais. Et il y a quand même un peu ça, je trouve, il y a un truc un peu, la vache, la famille, quoi. La famille, comme moi j'avais écrit un petit texte sur la pièce qui s'appelle La famille comme champ de bataille, mais c'est s'il y a bien un endroit dysfonctionnel, toxique et problématique, c'est la famille. Rien ne va, quoi. Une camarade metteuse en scène qui était là hier soir me dit ça en sortant. Elle me dit mais j'avais oublié que c'était l'histoire d'une famille de dingue. Il y a un peu un truc comme ça. Mais je pense que toutes les familles sont dingues, probablement.
Alors, peut-être que c'est le moment est venu pour des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Est-ce que je peux passer la parole ? Oui ? Non ? Parce que nous, on peut continuer de parler, mais peut-être que ce serait bien que vous parliez aussi.
tout à l'heure. C'est la promotion 33 qui nous quitte.
Non, parce qu'ils doivent aller travailler.
Si vous ne venez pas réserver vos places pour aller les voir, ils jouent ce soir, demain, jusqu'à samedi.
À 20h ce soir, à 17h samedi, écho dans un texte d'Élise Vigier, et ça a l'air absolument formidable. Donc on fait une promotion totale.
Merci beaucoup. J'ai pas encore eu la chance de voir la pièce que je vais découvrir ce soir seulement. Et il y a un personnage dont j'ai l'impression qu'on a un peu moins, qu'on a un peu moins évoqué que les autres, qui est Belize. Et on a beaucoup parlé des femmes savantes dans leur indépendance vis-à-vis du monde des hommes, vis-à-vis du pouvoir des hommes. Et dans mon souvenir, Belize, on pourrait la qualifier peut-être d'érotomane, en tout cas elle se fait des fictions d'amour. Et je me disais, tiens, c'est un point par lequel elle rentre dans cette domination romantique. Comment est-ce que vous avez traité ça, et est-ce que ça, parmi les acteurs et en tant que metteur en scène?
Sur Belize, on s'est dit deux choses. Moi, c'est en travaillant sur Belize que j'ai eu envie de monter la pièce, même si au fond l'hypothèse très fugace que j'avais eue sur le personnage ne tient pas vraiment, parce qu'il vient à contrario de sa force, qui est quand même d'être le rôle de ramasse de folie de cette pièce, quoi. C'est quand même le rôle comique un des plus. On s'en rend pas forcément compte en répète, quoi. Mais parce que c'est pas facile de jouer un rôle de comédie pure.
C'est manifeste quand vous verrez la pièce, toute apparition d'Élise, et c'est peut-être même pour ça qu'on n'en a pas parlé paradoxalement, c'est parce que vous verrez dans la pièce d'Élise, à chaque fois qu'elle fait une entrée, l'ensemble de la salle éclate de rire. Ça marche à chaque fois.
Alors là, l'avoir annoncé comme ça, vous allez être d'une extrêmement déçue ce
soir. Non, c'est impossible.
Parce que vous attendez qu'elle rentre en faisant trois cabrioles avec des chiens qui crachent du feu et des choses, ce ne sera pas pareil.
Mais c'est un peu ça qu'elle fait d'un point de vue ludique.
Plus de spoil.
Non, mais au début, en fait, en travaillant cette pièce, parce que c'est comme ça que l'histoire a commencé, c'est que je me suis retrouvé à travailler la pièce avec les élèves de la promotion 32, dont un certain nombre sont aujourd'hui dans la distribution d'ailleurs, donc il y a déjà 4 ans. À titre d'exercice pour travailler sur les Alexandrins, mon vieux professeur Robert Angebaud, qui enseigne les Alexandrins dans cette maison, me dit on prendra les femmes savantes. Je lui dis ah bon, tu crois? Il me dit c'est la plus belle, tu vas voir, c'est formidable. Et de fait, bon. Et donc on travaille Belize, et alors j'entends la première scène avec. À la fois la première scène avec Litandre, et ensuite la scène avec ses frères, cette femme qui dit tous les hommes m'aiment. Et les autres lui disent tu es folle. Et elle dit non, je vous promets que c'est vrai. Tous les hommes m'aiment. Et une femme qui aujourd'hui dit « tous les hommes m'aiment », vous mettez ce que vous voulez derrière le mot « même hein, » par ailleurs, et les autres lui disent « tu es folle », je trouvais que ça résonnait étrangement avec quelque chose de l'époque. En fait, oui, c'est vrai que tous les hommes aiment n'importe quelle femme, et n'importe quelle femme peut dire « je vous promets que c'est vrai, tous les hommes m'aiment ». J'avais l'impression qu'elle disait comme Cassandre une chose absolument profonde de l'expérience féminine, que les hommes ont commencé à comprendre il y a quelques années maintenant, avec parfois un peu d'effarement. Ben non, pas moi, c'est quand même très exagéré tout ça. Mais elle disait une chose que je trouvais très profonde. Alors en réalité, donc j'avais dit à l'actrice, chaque fois que tu parles, il faut que tu sois terrifiée. Et que tu dises à tout le monde dans un accès de terreur, ces gens vous aiment, oui, de toute leur puissance. Et ils vous l'ont dit, aucun n'a pris cette licence. Mais je sais qu'il m'aime. Bon, en fait, ça ne tient pas complètement, mon hypothèse. Et à ce moment-là, en regardant le travail, alors il s'est passé autre chose, érotomane visionnaire, je ne crois pas. En revanche, on découvre avec Belize que la meilleure stratégie pour que les mecs vous foutent la paix, c'est de leur sauter au cou. Et j'ai découvert depuis, grâce à ma fille, des petites vidéos sur Internet qui me font mourir de rire et que je trouve merveilleuses, qui sont des filles qui font de la drague de rue agressive et qui se filment. Qui viennent voir des mecs et qui leur disent « Dis donc, il te fait un beau petit cul ton jean, t'es tout seul là dans la rue là ?» Et les types se décomposent, deviennent blancs, partent, etc., etc. Et ça, c'est pour moi, c'est la stratégie Belize. Belize, si elle a bien un but dans la vie, et j'espère que la mise en scène le signifie dans sa scène avec Litandre, c'est que les mecs la lâchent. Et le meilleur moyen pour que les mecs ne s'occupent pas d'elle et la lâchent, c'est de leur sauter au cou en permanence. Il n'y en a pas un qui lui court après. Tous sont tétanisés par Belize. Ils peuvent être pleins d'enthousiasme pour Henriette, pour Armande, ils pourraient même envisager Philaminte. Mais alors Belize, elle, impossible. Pourquoi? Parce qu'elle leur saute au cou. Et je ne crois pas du tout que ça témoigne de sa dépendance vis-à-vis des hommes, mais au contraire de sa très grande indépendance vis-à-vis des hommes. Parce que, comme elle le dit à plusieurs reprises, mais par ailleurs, j'en ai rien à foutre. En disant, je sais que vous m'aimez, je sais qu'on s'aime à la folie, vous en aimez une autre, c'est très bien, allez, aimez l'autre, c'est parfait. Elle dit ça plein de fois dans la pièce. Je sais bien qu'il voudrait m'aimer, mais non, je vous abandonne. Allez à cet hymen, je vous laisse. Elle dit ça à Trissotin, et à la fin, elle dit, on pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire à propos de Clitandre, mais nous bannissons l'amour physique parce que nous sommes Donc en fait, Bélise, c'est celle qui a trouvé la martingale pour que les mecs la lâchent, quoi. Moi, je la sens pas du tout dépendante vis-à-vis des hommes. Et après, quand elle raconte tout son discours sur l'amour à ses frères, bon, alors là, c'était très trouble, quoi. Moi, je trouve cette scène extrêmement trouble. Mais bon. Je trouve que la sœur qui vient voir ses deux frères pour leur dire « tous les hommes m'aiment », et vous le savez très bien, et vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez vu qu'il y a des moments, moi, je transpire à grosses gouttes en entendant cette scène et en voyant les deux frères lui dire « t'es folle !» C'est ce passe entre gens d'un certain âge. La petite sœur, entre ses deux frères, je sais pas, je trouve la scène hyper glauque, moi, personnellement. Et elle vient vraiment leur dire « vous savez très bien de quoi je parle ». Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle les emmerde. Elle les empêche de faire ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire de préparer le mariage d'après, quoi. Donc, Bélise, terroriste en chef.
C'est pour ça que, du point de vue scénique, spectaculaire, la comédienne réussit extrêmement bien le rôle. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et en utilisant les moyens de la farce, quand même. Très, très sûrement. Un des personnages qui intègre les moyens de la farce à la grande comédie sur le savoir.
Et et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une comédienne qui a énormément profité de l'enseignement de clown qu'on fait dans cette maison et qui était très intéressée par l'enseignement de clown et qui continue d'ailleurs un travail autour du clown, Marion. Je dis du bien d'elle parce qu'elle est partie, donc j'ai le droit. Et au fond, moi, mon hypothèse mélodramatique sur le personnage tenait pas. Enfin, je veux dire... La Cassandre venant annoncer que tous les hommes poursuivent les femmes et que les hommes sont tous des amoureux, c'est-à-dire en fait des violeurs potentiels, ce qui est la grande annonce, pour moi la grande prophétie de Bélise, pouvait pas être tenue sur un mode tragique, donc il fallait qu'il le soit sur un mode farcesque, sur un mode clownesque. Mais c'est bien quand même ça qu'elle vient dire. Tous les hommes sont des prédateurs violents, et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des hommes qui, je le redis, hein, chaque fois qu'il y a des hommes qui sont un peu lâchés dans la pièce, ils deviennent instantanément violents.
D'autres questions ?
J'ai vu la pièce mercredi dernier, donc j'en ai encore quelques souvenirs. J'aurais une question concernant la fin de la pièce et peut-être que ça sort un petit peu du contexte des personnages. Je crois me souvenir qu'à la toute fin de la pièce, il y a vraiment une flatterie vis-à-vis de la cour dans les propos. Et moi qui considère a priori que Molière est quelqu'un de très irrévérencieux, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Alors comment l'expliquer ? Serait-ce par scepticisme, comme vous l'avez évoqué ? Ou alors est-ce qu'il y a des raisons pour qu'en 1672, par exemple, Molière ait des choses à se faire pardonner vis-à-vis de la haute noblesse ou de la cour. Donc, vous voyez, c'est une question peut-être un peu plus historique.
Non, mais, j'ai pas compris, vous avez dit Molière irrévérencieux ?
Non, l'image que j'en ai, c'est quelqu'un d'irrévérencieux.
Ah non, lèche-botte en chef, Molière.
Bon, c'était l'image que j'en avais, par exemple dans Le Bourgeois Gentilhomme. Mais bon, je ne suis pas à votre niveau.
Non, mais je précise ça, c'est un peu...
À la fin de la pièce, il y a quand même, on va dire, beaucoup de compliments qui sont faits vis-à-vis de la cour. Et j'avoue que ça m'a un petit peu gêné. J'ai trouvé ça... je pense qu'on aurait pu s'en passer. Donc, est-ce qu'il y avait des éléments qui auraient pu laisser à penser qu'il était opportun de le faire en 1672 ?
Oui, je ne pense pas que Molière ait jamais été particulièrement irrévérencieux à l'égard de la cour. Ses cibles, en général, c'est les bourgeois, la bourgeoisie. Il prend bien soin de ne pas attaquer directement le pouvoir royal. En général, le dénouement est souvent mis, d'ailleurs, en lien avec le roi. Dans Tartuffe aussi, c'est un messager du roi qui vient rétablir les choses. Donc là, il y a effectivement un éloge de la cour qui peut paraître assez lèche-botte, quand même, assez appuyé. Alors on peut aussi éventuellement creuser un petit peu. Il y a peut-être quand même aussi quelques éléments critiques qu'on peut chercher aujourd'hui. Alors aussi avec nos lunettes d'aujourd'hui, par exemple de ce discours où Clitandre, dont on a vu que dans la mise en scène faisait un personnage qui n'était pas à prendre au pied de la lettre, qui n'était pas forcément un porte-parole direct de Molière, qui tente de faire l'éloge de la cour en disant que la cour défend l'ignorance et qu'elle a besoin d'un savoir qui lui soit directement utile et une science qui soit à son service, en quelque sorte. Donc ça représente quand même une image de la cour à laquelle on ne peut pas forcément avoir envie d'adhérer directement, une vision un peu utilitaire de la science. Donc ça permet peut-être de nuancer aussi un petit peu le caractère monolithique de cet éloge de la cour. Et cela dit, Molière, lui, est bien pensionné par le roi et donc il ne va pas aller faire de critiques frontales du pouvoir royal.
Oui, je peux ajouter quelque chose. Je crois qu'il faut différencier l'adhésion à un ordre politique qui a le premier donné une visibilité, une dignité sociale aux artistes et les révérences intellectuelles réelles de Molière à l'égard de toutes sortes d'autorités, et en particulier des autorités théologiques, qui sont les premières cibles de Molière. Mais il fallait bien un ordre politique qui cautionne les révérences intellectuelles. Donc il ne peut pas se retourner contre un ordre politique qui lui permet ses audaces intellectuelles dans ses pièces. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut qu'il rende compte au roi de sa propre liberté, parce que c'est le roi qui lui donne cette liberté-là, de rendre ridicules les faux dévots, les imposteurs de toutes sortes, les hypocrites, les faux nobles, les plus ou moins vrais savants. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'en remet à cet ordre politique parce que c'est cet ordre-là, dans cet ordre-là, qui peut être libre, audacieux et irrévérencieux.
Et peut-être même, en fait, je pense que l'idée, enfin, une des choses que montre très clairement la pièce, je ne sais pas si vous a frappé, enfin, je crois que nous, ça nous a frappé, c'est cette espèce de dialectisation où on passe son temps à aller d'un point à un autre et finalement, on ne trouve pas le porte-parole de Molière, on ne sait pas bien où il est et finalement, probablement que c'est la pièce elle-même qui est la porte-parole de Molière et pas un personnage, une tirade, etc. Et d'une certaine manière, cet éloge de la cour que fait Clitandre, il est quand même très mi-figue, mi-raisin, en fait. Je veux dire, selon la manière dont on voit Clitandre, on trouve que c'est un éloge, effectivement, un vrai éloge, ou alors on dit franchement, c'est un aristocrate désargenté qui a besoin de se marier, c'est donc quand même qu'en fait il n'est plus déjà dans le haut du panier, enfin pardon de cette expression un peu vulgaire, et somme toute, le quittant le faisant, il est d'une arrogance qui n'est pas très bon, non plus tellement de bonne aloi, enfin au moment où il fait cette scène, le personnage a quelque chose d'un fin, qui n'a pas non plus l'élégance aristocratique qu'on réclamerait chez un La Rochefoucauld, où on voudrait un honnête homme un peu convenable, quand même, un peu plus haut du panier. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas bien si cet éloge, en fait, n'est pas aussi une espèce d'invitation à une forme de suspicion par rapport à une certaine manière de concevoir la cour, et paradoxalement, par là, de valoriser le roi et non pas la cour, vous voyez, enfin, de valoriser la structure monarchique elle-même, l'absolutisme, au détriment de ceux qui contribuent à le rendre visible.
Et concernant Molière, j'ai le sentiment qu'il a, de temps en temps, en tout cas, je pense à Tartuffe, puisque j'ai monté Tartuffe, et il y a ce discours à la fin, absolument insensé, de l'envoyé du roi, qui, alors là, c'est du ripolin, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est là, ça. Mais c'est que j'ai le sentiment, Molière, le seul point d'irrévérence qui pouvait s'autoriser vis-à-vis du roi, c'était l'éloge excessif. Je me demande parfois, mais je ne me rends pas compte, s'il n'y a pas une légère pointe d'insolence dans la façon dont il a parfois de fêter le pouvoir royal. Enfin, j'entends tout à fait ce que tu dis, la cour contre le roi et tout ça, ça me paraît très, sans doute très juste. Mais je me dis parfois, même vis-à-vis de Louis XIV, qui je pense à ce moment-là est un roi jeune, et dans ce que je crois comprendre, un peu moderne, relativement libéral. Il va redevenir très réac à la fin de son règne, il va révoquer l'édit de Nantes notamment, donc il va relancer la persécution des protestants, mais à ce moment-là c'est un roi, pas libre penseur c'est beaucoup dire, mais en tout cas un peu libre vis-à-vis notamment des autorités religieuses, enfin. Donc il a la paix là-dessus, Molière. Mais dans sa façon parfois de lui rendre hommage, j'imaginais bien Louis XIV lui dire de temps en temps, n'en faites pas trop Molière quand même, ça se voit un peu que vous... En me rendant hommage, vous vous foutez un tout petit peu de ma gueule et je commence à le voir, quoi. J'en sais rien, je dis ça parce que je suis fan de Jean-Baptiste et tout.
C'est un vrai sujet à l'époque, l'hyperbole encomiastique qui se discrédite d'elle-même. Et La Fontaine en joue beaucoup. Boileau dit non, mais là vraiment, je suis incapable de vous louer. Il faudrait, je n'ai pas les ressources rhétoriques, c'est impossible. C'est de l'ordre de l'indicible. La gloire de Louis XIV, c'est de l'ordre de l'indicible. Voilà, il y a le jeu de la prétérition. Enfin, c'est vraiment un topos de l'époque, ça. Que fait-on avec ce roi, effectivement, comment on en parle, comment on manie cette parole d'éloge?
Je vais dire n'importe quoi, mais la sensation qu'on peut avoir quand on voit les gens qu'il aime bien, qu'il protège et qu'il défend, c'est qu'à ce moment-là de sa vie, en tout cas, il a l'air d'avoir un peu d'humour, ce roi. En tout cas, il a l'air d'avoir envie de rire un peu, tout ça.
Bon. En tout cas, il sait qu'un tout discours ne se prend pas forcément au pied de la lettre. Et on parlait de pyrrhonisme tout à l'heure. Alors, dans le pyrrhonisme, il y a toute une composante énonciative qui consiste à dire non pas tout et son contraire, mais à suspendre le jugement entre A et B, l'argument A et l'argument B, qu'on avance symétriquement, face à face, qu'on regarde, qu'on considère à égalité, et entre lesquels on suspend son jugement. Et cette composante énonciative, elle est extrêmement intéressante pour comprendre la mobilité des points de vue à l'époque. Il n'y a rien de mieux que le théâtre. Et Louis XIV était fanatique de théâtre. Rien de mieux que le théâtre pour rendre compte de ce jeu énonciatif, évidemment.
Merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé vraiment passionnant et cette ouverture sur le pyrrhonisme et la question de la suspension du jugement à laquelle vous arrivez là tout de suite me permet de poser ma question. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans les différents points de vue que vous-même exprimiez sur la pièce, c'est la manière dont, en tant que contemporain et contemporaine, on peut profiter tout à fait de ce travail de Molière, tout à fait d'époque lui-même, pour trouver les lieux et les espaces de notre propre perception contemporaine. Alors, je prends un exemple qui m'a vraiment retenu quand vous citiez Philaminte et perdant toute chose à la fin, il se reste. Vous avez parlé d'héroïsme. Mais précisément, alors j'ai entendu là un écho avec une pièce dont on n'a pas encore parlé, il me semble, qui est le Misanthrope, avec la radicalité absolue de ce Misanthrope qui choisit l'intégrité et la pureté totale au grand dam de Philinte, qui justement préconiserait une approche davantage nuancée, propre à l'honnêteté de l'époque et davantage, me semble-t-il, proche de valeurs qui relèvent de l'intégration par un compromis raisonnable de l'individu au sein de différents collectifs dont il dépend et auxquels il participe, qui n'est presque plus une valeur très louée aujourd'hui, à une ère d'exaltation au contraire du positionnement individuel, de la fidélité à soi, du devenir soi, parfois sans compromis. On irait, pour être taquine, parce que vous avez parlé beaucoup de l'intellectuel de gauche, mais c'est presque néolibéral en un sens, cette affirmation du soi. Et pourtant, on a entendu ce mot d'héroïsme. Et donc, ce qui m'interroge, c'est cette pureté et cette exigence-là. Est-ce que c'est un héroïsme? Est-ce qu'on peut attacher ce mot-là par rapport à l'époque? Est-ce que c'est en soi, et c'est là où vous avez l'air d'en venir, un objet d'ambivalence qu'on interroge? Et est-ce que c'est précisément par des faits d'époque qu'on peut historiciser de l'habilité qu'on arrive à faire de Molière quelqu'un de très contemporain en réalité, sur lequel on peut plaquer ou en tout cas adapter des points de vue sur les Mao, sur le féminisme, sur le patriarcat, comme on le fait assez facilement?
Voilà, waouh, je vais essayer de répondre des choses intelligentes à une question qui l'est beaucoup. Donc, sur la question du contemporain, en tant que metteur en scène de théâtre, il y a une chose qui ne me va pas, et maintenant en tant que directeur de théâtre, il y a une chose qui me va pas, c'est d'entendre, on ne l'entend plus. Mais quand j'ai commencé le théâtre, il y a déjà un bon moment, on l'entendait beaucoup. Un metteur en scène vous disait, je monte Macbeth parce que c'est vraiment, c'est la pièce idéale pour parler d'aujourd'hui. Alors ça, à chaque fois, les bras nous en tombaient parce qu'on était quand même déjà des défenseurs de l'écriture contemporaine, de rappeler qu'il y avait des gens vivants qui écrivaient, que si on voulait parler d'aujourd'hui, il fallait quand même leur donner la parole. Et je parle vraiment d'une époque où, c'est pas du tout le cas, si vous regardez la programmation du Centre Dramatique aujourd'hui, des centres dramatiques et je dirais même des scènes publiques, le répertoire, ça fait déjà un bon moment qu'il n'est plus du tout majoritaire dans les programmations. Mais moi, quand je parle là de la la toute fin des années 80 et du début des années 90, donc quand j'ai commencé à la fois ma vie de spectateur très assidu et en même temps de commencer à me dire que j'allais peut-être faire du théâtre, vous regardiez la programmation des grands théâtres, il allait de soi que vous aviez parfois une programmation, c'était 100% du répertoire. Je me suis amusé à regarder, je sais pas, la programmation des Amandiers. Vous aviez une pièce contemporaine pour 5 pièces du répertoire. C'est-à-dire, il allait de soi qu'un metteur en scène, qui était toujours un homme, son travail, c'était de relire le répertoire. Et donc, on enchaînait, mais le répertoire européen, d'ailleurs. Hein, donc, il y avait aussi des Allemands, etc., des Français, un peu d'Anglais, tout ça. Et l'idée que... Et je me souviens, à ce moment-là, dans les années 90-2000, la bataille des écrivains, des écrivaines, des autrices, des auteurs, pour dire, mais bon sang, jouez nos pièces, quoi. C'est une chose qui a beaucoup bougé, beaucoup évolué pour le meilleur. Donc, moi, je pense que quand j'ai démarré, un peu pris dans cette atmosphère, j'ai aussi commencé à monter des pièces du répertoire en les actualisant. C'est-à-dire en disant, évidemment qu'on va jouer ça en costume d'aujourd'hui, puisque le but, c'est de parler d'aujourd'hui. Et puis, le temps passant, cette idée m'a paru de plus en plus saugrenue, et même problématique. Et là, c'est ce qu'a commencé à dire Zoé au début de notre échange. Au contraire, c'est bien l'altérité et la distance. Je veux dire, même en tant que... je n'ai jamais fait tellement mystère de mes inspirations philosophiques, donc je vais dire en tant que matérialiste, et même croyant pas forcément que l'histoire a un sens ni une fin dialectique prévisible, mais néanmoins qu'il y a de l'histoire. Et s'il y a de l'histoire, ça veut bien dire que les choses changent et pas que les choses ne changent pas. Je me suis dit, mais c'est vachement réactionnaire, finalement, comme discours, de dire la meilleure façon de parler du 21e siècle, c'est de prendre une pièce du 16e. C'est très étrange, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'histoire, justement. Non, il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire, donc il y a de la distance. Et donc, au contraire, là, quand je continue à monter des pièces du répertoire, ce qui n'est pas l'activité, mon activité principale, même si c'est parfois la plus visible. Parce que c'est vrai, mais ça, on pourra en reparler, ça pourrait être un autre sujet. Mais c'est vrai que quand on joue Molière, moi, je suis ému. On remplit cette salle 10 fois, ce qui est énorme, parce qu'on joue rarement un spectacle 10 fois dans cette salle. Et c'est plein, et tout ça. Mais c'est Molière. Je veux dire, ça marcherait. Je ne prendrais pas le pari sur un autre auteur, même français. Lui est spécial. Il faudrait parler de ça. Pourquoi lui est spécial et tout ça. Mais donc, au contraire, c'est la question de la distance historique qui compte. L'écart. Ce que me disait Sophie Chen, qui est la directrice adjointe du Centre dramatique et qui s'occupe de la programmation ici, mais il se trouve qu'on travaille ensemble depuis 30 ans et qu'elle a produit la totalité de mes spectacles. Et donc, c'est un dialogue au long cours. Et elle me disait simplement ça, et je trouve que ça, j'aime bien cette phrase. Elle me dit, c'est pas mal de vérifier que ça causait déjà de ça il y a 400 ans. Dans des termes qui n'étaient pas les mêmes. Mais en tout cas, il y a 400 ans, ce qui est quand même énorme, c'était des questions, c'était un sujet. Évidemment, quand on l'entend aujourd'hui, on se dit, pas posé dans les coordonnées qui sont les nôtres. Donc vouloir les identifier terme à terme est toujours un peu bizarre. Alors ensuite, vous avez relevé... avec malice, mes propres raccourcis. Mais en fait...
C'est tout à fait involontaire, la malice.
Non, mais je dis pourquoi les raccourcis, en fait, ça, c'est des trucs de travail avec les acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle avec les acteurs et on dit, mais tu sais, c'est un peu comme si. C'est simplement ça. À côté de ça, nous, comme on a fait un travail, j'espère, assez rigoureux, pour se dire, en revanche, il y a une chose qu'on ne fera pas, c'est qu'on ne va pas éviter l'obstacle de la langue. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on ne va pas éviter l'obstacle de la langue. Donc la question de 12, la question d'Alexandrin, même la question des rimes féminines et des rimes masculines, de se dire, on ne respire pas les mystiches, on respire à la fin du vers, un vers, un souffle, il faut que ça aille droit. Parce qu'on a fait ce travail un peu scrupuleux sur la question du vers et de son énonciation, oui, bien sûr, dans le temps de la répétition, on fait un jeu d'équivalence qui est toujours rapide, et un peu rapide en disant, mais tu sais, c'est un peu comme. Oui, je disais tout à l'heure, mais Bélie, c'est comme une youtubeuse aujourd'hui dans la rue qui se filme en train de sauter au cou des mecs. Et c'est pas, ça n'a pas d'autre vertu. Je veux dire, ça n'est pas une recherche d'équivalence de ma part pour dire, ah, vous avez bien vu qu'en faisant ça, on vous parle de ça. C'est simplement des choses énoncées pour activer les comédiennes et les comédiens. C'est ça la seule vertu. Après, si quelqu'un dans la salle, ça lui fait penser à ci ou à ça, moi je ne fais que dire les choses auxquelles on pense quand on répète, mais sachant que Il y a toujours des choses que les gens vous racontent et que vous n'avez absolument pas prévues. Moi, je dis aux comédiens, aux comédiennes, écoutez les gens à la sortie, c'est très important, mais ne les écoutez pas trop, parce que les gens ne parlent que d'eux. Ce qui est normal, c'est à ça que sert le théâtre. Donc les gens sortent et vous disent, c'est formidable parce qu'ils se mettent à vous parler d'eux, en fait. Mais si le comédien croit qu'on lui parle de lui, de temps en temps, ça le perturbe et il écoute des choses fausses. Mais le spectacle a lieu dans la tête de ceux qui regardent. Moi, là, de temps en temps, j'ai l'impression, quand je dis des trucs, d'abord, j'énonce aucune vérité sur la pièce d'aucune sorte, parce que c'est... La vérité, elle est dans, encore une fois dans la tête de celui qui reçoit, et ce qu'il a compris est vrai. C'est la différence, je pense, entre nous, ce qu'on fait, et les scientifiques. C'est que nous, c'est ce qui a été compris qui est vrai, pour moi, vraiment. Ce qui a été activé par les gens qui reçoivent l'œuvre, qu'est-ce que ça a activé chez eux, ben, c'est ça la vérité de l'œuvre, en tout cas pour eux et tout ça. Donc là, je fais des énoncés qui n'ont pas d'autre vertu que d'être des sortes de petits moteurs pour s'entendre. Donc toutes mes équivalences contemporaines, en fait, c'est des fils de bâti. Vous voyez, en couture, ça s'appelle des fils de bâti, quoi. Mais ça, on s'en parle parce que là, on parle cuisine. Mais sinon, c'est des équivalences qui sont toutes fausses, en réalité. Les femmes savantes, c'est des Mao, c'est une monstruosité. En fait, c'est juste un truc pour nous activer quand on répète les rôles, quoi.
Merci beaucoup. Oui, si je peux ajouter juste un mot de mon expérience de spectatrice et d'auditrice du texte dit par les comédiens, l'alexandrin, quand il est à la fois respecté, mais joué dans une forme de fluidité, d'appropriation, ici et maintenant, d'une langue ancienne, eh bien, ça crée, enfin, pour moi du moins, mais je pense pouvoir le partager, une sorte de jubilation, de reconnaître des préoccupations qui sont les nôtres, dans la distance historique que donne cette langue ancienne, cette langue qui est toujours la nôtre, mais très à distance de nos formulations. Et je pense que c'est un... Alors, je vais aller loin, hein, peut-être je suis excessive, mais il me semble que c'est ça nous sert de barrière contre l'adhésion fanatique à des idées, à des valeurs. Voilà, parce que ça a traversé le temps et on peut le reformuler. On sait qu'on peut le formuler autrement. Et prendre ses distances avec la formulation qui est actuelle et qui est peut-être sommaire et qui est peut-être militante. Alors, je ne veux pas mettre du péjoratif dans ce terme, mais voyez, qui fait qu'on adhère. Alors que je trouve que la distance, ça permet justement dans des formes de scepticisme ou de, d'appropriation réfléchie, pensée, située, de prendre les problématiques actuelles et d'en faire quelque chose pour soi.
Peut-être pour rejoindre ce que dit Michel et je pense aux choses qu'on a faites avec Véronique sur les questions de représentation du viol. En fait, il y a une chose intéressante, c'est de voir à la fois comment les questions se posent et comment le texte joué dans sa langue originale, ce qui n'est pas le cas du texte joué en traduction qui est toujours joué dans une langue actuelle, impose en fait une distanciation. Alors que quand on joue du Shakespeare aujourd'hui, finalement, le fait que ce soit dans une langue courante gomme cette espèce de distance chronologique et oblige à la traduire autrement sur le plateau, alors que là, en fait, la langue qui est quand même, on fait tout le temps chanter l'alexandrin, on n'est plus du tout dans une ancienne année 90 où on gommait l'alexandrin et on fait les muets, enfin on félicite Robert Angebaud, mais en l'occurrence on fait entendre une distance constamment qui oblige à faire une espèce de chose à trois bandes, si je puis dire, entre l'actualisation qu'on serait tenté de faire, le travail d'historisation et finalement le bâillement que suppose la pièce et que réactive en fait le décalage entre le plateau et la scène. Donc il me semble que, en fait, d'une certaine façon, on n'est plus du tout effectivement dans cette démarche d'actualisation, mais au contraire de position un peu distanciée, sans pour autant faire de la distanciation chère à l'auteur préféré de Benoît. Voilà, je ne sais pas si peut-être que Benoît, tu dis deux, trois mots pour conclure, et je crois que Valérie serait d'avis que cette rencontre s'arrête.
Non, je veux simplement vous remercier. Je dis juste une chose pour finir qui suit un peu cette dernière considération. J'ai dit que la salle était pleine, on s'en réjouit. Viennent voir cette pièce des gens qui ne viennent pas beaucoup à la comédie habituellement, ce qui fait aussi plaisir. Pour l'anecdote, mais c'est très bon pour le narcissisme, en rentrant dans la salle un soir devant moi, il y avait deux dames qui voient marquer donc, les femmes savantes de Molière, mis en scène Benoît Lambert, et la dame se tourne vers sa voisine et dit... Ça me dit quelque chose, ce nom, Benoît Lambert. on n'a pas déjà vu quelque chose de ce metteur en scène? Et l'autre, là, regarde, peut-être, vaguement. Bon, je dirige ce théâtre depuis seulement 4 ans, donc c'est peut-être normal, mais en tout cas, c'est pour dire que là, il y a des gens qui ne sont pas des habitués de la comédie, sinon, je pense qu'éventuellement, ils connaîtraient le nom de son directeur. Donc, viennent des gens qui viennent voir Molière. Donc, des gens viennent encore voir Molière. Il paraît qu'au Far West, les troupes itinérantes jouaient Shakespeare devant les cow-boys et que ça marchait très bien, d'ailleurs, au 19e siècle. Et là, des tas de gens viennent voir Molière. Alors, je pense qu'on va voir Molière un peu pour s'auto-punir, parfois, parce que je vois des gens qui viennent avec leurs enfants. Et j'imagine qu'à un moment donné, on a dit « Non, mais samedi, on va les emmener voir les femmes savantes, quoi, quand même, non, tu crois pas ?» Et donc, monsieur a dit « Tu crois ?» Il dit « Mais quand même, c'est la culture, quoi, non ? Faut bien y aller des fois, à la culture. » Et donc, des familles anxieuses franchissent les portes de la salle. Et étrangement, pour leur plus grand étonnement, passent un bon moment. Alors ça, c'est un miracle qui tient quand même principalement à Molière pour tout un ensemble de choses. Le premier, c'est la langue. C'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire, on va rien comprendre. Et si miracle, on comprend. Pas tout, mais on comprend. Et on se dit, ah mais c'est notre langue. Sauf que pas tout à fait, mais quand même. Et c'est, je pense qu'il y a un plaisir très spécial dans ce « pas tout à fait, mais quand même ». Donc, c'est de sortir en se disant « mais en fait, on a compris ». Hier, il y a un monsieur, il sort devant moi, et il a dit cette phrase formidable, il se tourne vers sa femme, il dit « non, mais là, tu rates un mot, t'es mort, hein, à propos des acteurs ». C'est-à-dire qu'il avait bien compris le sport spécial que c'est de se dire « putain, 12, et il ne faut pas les rater, quoi ». Et si tu les rates, ben, il faut savoir improviser le mot qui manque, et de temps en temps, bon, enfin bref. Tu rates un mot, t'es mort, c'est merveilleux. Et donc les gens, déjà, ça, sont contents, leur langue, tout ça. Je dis ça parce que je ne veux pas faire de choses trop grandiloquentes, mais moi je dirige un centre dramatique national et je ne rougis d'aucun des mots de ce titre. Et notamment pas du mot national. J'ai aucun problème avec ce mot-là et je trouve très problématique qu'on l'ait laissé à nos ennemis, qui se le sont appropriés d'une façon extrêmement discutable. Et moi je m'occupe principalement de la langue française, de la culture française, et même du patrimoine, n'en déplaise aux forces réactionnaires anti-républicaines de notre pays. Donc, un centre dramatique national dans lequel on a plaisir à jouer le grand auteur national, qui n'est pas un auteur odieusement réactionnaire, n'en déplaise aux réactionnaires. Voire, et il faudrait développer, qui a été très bien réapproprié par la République et qui peut aller, parce que finalement, il y a des éléments même de progrès dans son œuvre qui fait que, bon, il peut résonner avec nos ambitions progressistes et républicaines. Donc les gens, déjà, l'histoire de la langue, l'histoire du patrimoine, l'histoire de la culture, et puis il y a une chose qui est très simple en fait, et vérifiée à chaque fois. Tout ce qui fait rire dans notre pays, depuis lui, lui doit quelque chose. J'en suis sûr et certain. Je me souviens qu'à une époque, on avait demandé à Jamel Debbouze quel était son rêve dans la vie, il avait répondu, mais quasiment du tac au tac, jouer le misanthrope de Molière. J'ai vu des interviews d'Alexandre Astier, le réalisateur de Kaamelott, quoi, où au bout de 10 minutes, il dit Molière. Donc, tout ce qui fait rire lui doit quelque chose. À cause d'une cascade très simple, Marivaux, et qui est une réponse à Molière, Beaumarchais, qui est une réponse à Marivaux, qui est une réponse à Molière, puis ensuite on va tomber sur Feydeau, on va tomber sur Musset, puis de Musset, on va passer à Feydeau. Tout ça, tous ces gens-là se refilent un truc. Moi, il a sûrement des devanciers, mais lui, il est venu fixer le canon de quelque chose qui fait que chaque fois que vous regardez une de ses pièces, vous dites, mais je connais, alors vous connaissez par l'école, vous connaissez par plein de choses, mais vous connaissez aussi parce qu'en fait, donc, il y a un effet de familiarité autour de cet auteur, et pourquoi pas de sentiment d'appartenance à quelque chose, et ma foi... pour avoir le sentiment que la France, ça serait quelque chose, ou que la nation, ce serait quelque chose, terme qui ne faisait pas peur ni aux républicains, ni même à une époque au Parti communiste, la France et la nation, Molière, c'est pas mal pour se retrouver, quoi. Parce qu'en plus, on rigole et qu'on passe une bonne soirée, et que c'est très méchant, et que c'est très irrévérencieux, et qu'on se pose plein de questions. Voilà, donc parfois, je peux me dire, est-ce que c'est mélancolique que ce soit le patrimoine et cet auteur-là qui remplissent nos salles? Et de temps en temps, je me dis, je sais pas, c'est autant que les réactionnaires n'auront pas, peut-être.